Europe Matin,
le 5-7.
Sébastien Krebs.
Bienvenue dans le 5-7 tout de suite, votre premier journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bon réveil à tous, il est 5h.
Nous avons décidé de reporter la date du Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces avant le 1er décembre.
Le geste d'Amazon France hier soir, son patron sur TF1, suit le mouvement de report du Black Friday qui sera décalé d'une semaine. Le procès des attentats de janvier 2015 va reprendre, mais le principal accusé devra le suivre en visioconférence. C'est une première en raison de son état de santé. Et puis vous verrez pourquoi il ne faut surtout pas jeter son masque dans la poubelle des recyclables. Les salariés des centres de tri sont obligés de les retirer un à un du stock de déchets, prenant tous les risques sanitaires au passage.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix, votre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette. Nous serons à Rungis ce matin. Bienvenue à tous, 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il n'y aura donc pas de Black Friday le 27 novembre. Alors qu'il y a quelques jours sur Europe 1, le patron d'Amazon France s'était dit du bout des lèvres, ouvert à la discussion, c'était à votre micro Sébastien, il a finalement sauté le pas sous la pression.
Et dans le même temps, Carole Ferry, cette annonce permet d'envisager une réouverture des magasins physiques, et cela avant le 1er décembre.
Ah ben, y a aucun doute, hein, c'est une excellente nouvelle pour les commerçants puisque c'était l'une des conditions indispensables pour envisager d'ouvrir dès le week-end du 28 novembre. Si le Black Friday était maintenu, il était hors de question de rouvrir les magasins en même temps. Il y avait trop de risques de voir les gens se ruer sur ce week-end de promotion. Donc ça, effectivement, c'est un problème de régler. Maintenant, il y a aussi la question du protocole sanitaire qui doit être renforcé. Des négociations sont d'ailleurs prévues ce matin. Le gouvernement veut passer de 4 mètres carrés par client à 8, voire 10 mètres carrés. Forcément, ça veut dire moins de clients dans une journée. Et c'est un gros point de tension. Il faut donc que tout le monde se mette d'accord dans la journée sur le report du Black Friday et sur le protocole sanitaire renforcé. Deux conditions nécessaires, mais pas forcément suffisantes. Ce qui sera déterminant, c'est la situation sanitaire. C'est donc Emmanuel Macron qui tranchera au final lors de son allocution la semaine prochaine. Mais on peut dire en effet que les planètes semblent parfaitement aligné.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1, l'épidémie qui est loin d'avoir dit son dernier mot. On a encore recensé 427 morts rien que sur la journée d'hier.
Et on s'arrête un instant sur la situation dans les EHPAD. 1 sur 2 avait été touché lors de la première vague. Aujourd'hui, plus d'un établissement sur 5 compte au moins un cas de Covid.
Oui, alors le gouvernement veut maintenir les visites, hein, mais le protocole sanitaire va encore être renforcé, Victor Delande.
Oui, les personnels des EHPAD seront désormais testés toutes les semaines. Le gouvernement a d'ailleurs commandé 1 600 000 tests antigéniques pour approvisionner les établissements. Les proches, eux, devront remplir un questionnaire avant de rendre visite à un résident. Ils seront invités à faire un test PCR 72 heures avant leur venue ou un test antigénique dans la journée. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est une simple recommandation. Autant de nouvelles mesures indispensables pour maintenir les visites, comme l'explique la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon.
Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Nous avons tout de suite fait le choix de ne pas suspendre les visites des proches. C'est un choix que nous tiendrons même si nous mesurons à quel point l'équilibre entre protection et lien social est délicat à assurer au quotidien sur le terrain.
Et pour soulager les personnels dans les EHPAD, épuisés par cette crise sanitaire, le gouvernement a demandé à Pôle emploi de lancer une grande campagne de recrutement. Une autre piste sur la table serait de proposer aux jeunes en service civique de s'engager dans ces établissements dans les prochaines semaines.
Victor Delande, pourra-t-on partir au moment de Noël en vacances ou tout simplement pour retrouver sa famille dans une autre région? Cette question intéresse bien sûr aussi la SNCF et puis Air France.
Alors que le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari et l'invité de Sonia Mabrouquin tout à l'heure à 8h15. La direction de la compagnie aérienne française espère une annonce favorable aussitôt que possible. Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, Air France perd chaque jour près de 15 millions d'euros. Ça fait près de 500 millions d'euros par mois. Ce qui coûte cher, c'est de ne pas voler. Aujourd'hui, environ un tiers des vols seulement est assuré. Air France attend les annonces du gouvernement pour adapter son plan de vol pour Noël. Mais c'est sûr que ce plan de vol ne sera pas à 100%. Il y a trop de pays fermés. D'ici là, il faut donc parquer les avions. Ils sont répartis entre Toulouse, Orly et Charles de Gaulle. Il faut continuer de les entretenir. Il faut régulièrement faire tourner les roues des avions ou allumer les moteurs. Même si Air France a déjà reçu un gigantesque prêt de l'État, il lui faut encore de l'argent. L'État français, déjà actionnaire, et son homologue néerlandais vont donc monter au capital. C'est une question de jour, hein. Rien que la France devrait investir environ 3 milliards d'euros. C'est vital pour la compagnie qui s'est lancée par ailleurs dans un gigantesque plan d'économie. Le plan de départ des personnels au sol va entrer en vigueur tout début janvier. La compagnie doit signer également dans les jours à venir un accord d'activité partielle de longue durée. Ça va lui permettre de laisser une partie de ses équipes en chômage partiel au moins 2 ans. Car chez Air France, la seule certitude, c'est que la crise va être très longue.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
5h06, la justice à l'heure du Covid. Hier, le ministère de la Justice a publié une ordonnance qui va permettre au procès d'assises de se dérouler en visioconférence pour un accusé détenu qui ne serait pas en état de comparaître.
Et ce, sans solliciter l'accord des intéressés. C'est en fait une solution sur mesure pour sauver en quelque sorte le procès des attentats de janvier 2015, interrompu depuis presque 3 semaines, Chloé Triomphe.
Oui, une ordonnance aussitôt publiée, aussitôt appliquée, puisque dès lundi, le procès va reprendre avec l'un des accusés toujours malade du Covid-19 qui suivra les audiences depuis sa prison via un système de visioconférence, c'est-à-dire qu'il assistera aux plaidoiries des parties civiles, aux réquisitoires et aux plaidoiries de la défense, dont la sienne, en détention, jusqu'au verdict si besoin. Le président de la cour d'assises spéciale a informé les avocats hier soir, des avocats écœurés comme Maître Safia Akori.
Je ne souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi, de se retrouver à être jugé depuis un lieu de détention avec une caméra en visio. On entend extrêmement mal, ça coupe extrêmement régulièrement. Découvrir le verdict et d'entendre le verdict à distance, c'est pas normal. On ne devrait pas accepter ça. Je ne comprends pas que la justice n'ait pas conscience de la déshumanisation que ça implique.
Le ministère fait valoir que cette disposition ne sera valable que jusqu'à mi-mars, soit un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Mais déjà, certains s'inquiètent de voir ce régime d'exception perdurer dans d'autres circonstances.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
On en vient à cette colossale problématique des masques chirurgicaux. On sait maintenant qu'ils ne sont pas forcément à usage unique, qu'ils peuvent être lavés dans certaines conditions, mais il faut bien finir par s'en débarrasser.
Oui, alors surtout ne les jetez pas dans les poubelles de déchets recyclables, ça désorganise complètement le tri des déchets. Reportage dans un centre de Veolia en Seine-et-Marne, Virginie Salmen.
Sur le tapis roulant au milieu des déchets papier et carton, j'ai compté un masque toutes les 20 secondes en moyenne.
Regardez, il y a un masque qui passe, elle est obligée de le retirer.
Ce sont des hommes et des femmes qui les retirent à la main pour ne pas qu'ils polluent la matière qui part au recyclage. Ils ne devraient pas avoir à prendre ce risque, regrette Monique Calassi, cadre chez Veolia.
Ce geste-là, il est très compliqué à demander à nos trieurs. Parce que qui dit masque, c'est une contamination potentielle. On a fait une analyse de risque, on a mis en place plein de gestes barrières pour qu'ils puissent être protégés. Mais le geste reste assez difficile à faire. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont des familles, des enfants, qui ont peur comme tout le monde.
Ils sont équipés de masques et de gants épais, mais Alphonsine, l'une des trieuses de la chaîne, n'est pas toujours rassurée.
J'ai 4 enfants, c'est pour ça aussi qu'on est un peu réticente. On a peur aussi de ramener la maladie aussi à la maison. Les gens qui jettent, qu'ils fassent attention, de penser aussi aux gens qui travaillent derrière pour les enlever.
Et s'il y a trop de masques qui arrivent d'un coup sur le tapis roulant, certains trieurs demandent carrément à arrêter la chaîne. C'est déjà arrivé dans ce centre de Volpénie.
Virginie Salmen. Et puis, c'est une histoire qui rappelle la responsabilité que nous avons tous au quotidien, cette solidarité nécessaire quand une personne fait un malaise autour de nous et que parfois personne ne réagit.
Eh bien, mardi dernier, un garçon de 12 ans a pris ses responsabilités et il a permis de sauver un homme dans un bus. Écoutez ce témoignage, il s'appelle Paul.
Il y a un monsieur qui commence à se sentir mal et il dit « j'ai un infarctus, appelez les pompiers ». Comme j'ai vu que personne ne le faisait et que le monsieur le répétait et qu'il avait l'air de vraiment pas se sentir bien, je l'ai fait. Une dame a décroché. Elle m'a posé des questions, son âge, sa date de naissance. J'ai demandé au monsieur, mais comme il avait un infarctus, c'était très compliqué de comprendre ce qu'il disait. Elle m'a dit, je vous passe le médecin. Il m'a demandé de le rassurer, donc j'ai rassuré le monsieur. J'ai raccroché avec les pompiers. J'ai dit au monsieur qu'une équipe était partie. Je suis sorti du bus. Je suis parti en cours. On a revu avec les pompiers. Ils ont dit que le monsieur avait été sauvé, avait été transféré à l'hôpital. Je suis fier de l'avoir fait, parce que si j'avais pas appelé, je pense qu'on aurait appelé les pompiers trop tard. S'il y a quelqu'un qui a un problème un jour, il faut pas attendre, il faut directement l'appeler, même si on sait pas comment ça marche.
Voilà, il s'appelle Paul, il a 12 ans, il a sauvé une vie. Il répondait ici au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui.
Bravo à lui, beau témoignage pour terminer ce journal de 5h. Il est 5h10 sur Europe 1.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une de votre journal des sports, la réponse de Corinne Diacre.
Elle répond oui à sa capitaine en équipe de France, Amandine Henry. Oui, la sélectionneuse l'a rappelé pour les deux prochains matchs, l'Autriche et le Kazakhstan, décisifs pour la qualification à l'Euro 2022. Malgré les déclarations détonnantes dimanche dernier de la joueuse, mettant en cause la gestion humaine et sportive chez les Bleus de la sélectionneuse, Corinne Diacre tente de faire le vide, mais attend le plein investissement sur le terrain d'Amandine Henry.
J'espère tout simplement qu'elle sera concentrée au même titre que les autres pour aller chercher cette qualification. J'ai entendu des choses, effectivement, peut-être que l'on aurait pu faire ça différemment, mais c'est fait, donc on va pas revenir dessus. Maintenant, je crois que notre priorité, elle est tout simplement d'être concentrée dans un premier temps. Et dans un second temps, nous réglerons ce que nous aurons à régler.
France-Autriche, vendredi de la semaine prochaine, et France-Kazakhstan, le 1er décembre. Calendrier des deux derniers matchs de qualification donc pour l'Euro 2022.
Le foot féminin qui a ce soir les honneurs, et c'est assez rare, d'une programmation en première partie de soirée.
21h, choc Paris-Saint-Germain-Lyon, 9e journée de D1, le championnat de France. Le deuxième du classement reçoit le premier, 2 points d'écart seulement. Match au Parc des Princes, s'il vous plaît, c'est une première.
Et oui, on en parlera tout à l'heure avec mon invité inattendu à 6h15. On vous parlait hier de ce jeune basketteur français plébiscité en NBA.
Killian Hayes, 19 ans, recruté par les Pistons de Détroit hier lors de la draft, la traditionnelle nuit de recrutement des jeunes par les franchises. Hayes sélectionné à la 7e place historique pour un Français. Eh bien, je vous parle ce matin d'un autre bleu encore plus jeune et sur lesquels les équipes NBA ont déjà un œil gourmand. Il s'appelle Victor Wembanyama, né dans les Yvelines. Il joue dans le club de Nanterre en première division. Âge 16 ans, taille 2m19,
oh, wow.
Et les bookmakers américains le placent favori pour la draft NBA 2023. Victor Wembanyama, adoubé ce matin sur Europe 1 par Boris Diaw, rien que ça, ancien capitaine des Bleus de Tony Parker. Il explique pourquoi l'adolescent suscite autant d'espoir et de convoitise.
C'est parce que c'est vraiment le profil type du basketteur. C'est un joueur qui est grand, qui a de la taille, qui est très coordonné, mais qui manque encore, bien entendu, d'expérience. Et donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est encore du potentiel. Maintenant, ça passe aussi par beaucoup de travail et puis savoir garder la tête froide pendant tout ce processus aussi, parce que le fait d'être courtisé si tôt pour un jeune gamin, c'est pas forcément positif.
Boris Diaw, à propos de Victor Wembanyama, jeune joueur français très prometteur. Vous pourrez dire dans quelques années, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur Europe 1. Le Vendée Globe et les deux premiers du classement à touche-touche dans l'hémisphère sud, le Gallois Alex Thompson, distance Thomas Ruyant, d'à peine 4000 nautiques ce matin, 7 petits kilomètres. Charlie Dalin est toujours troisième.
Le chiffre du jour.
1, c'était le tout premier grand rendez-vous international de sa carrière et elle a décroché la médaille d'or. Bravo ce matin à Chirine Boukli, 21 ans, la gardoise championne d'Europe de judo, catégorie moins de 48 kilos. Titre décroché hier à Prague, théâtre tchèque des championnats d'Europe. Au total, dès la première journée hier, 3 médailles pour les Bleus. Sarah Léonie Sizik et Kylian Leblouc ont décroché le bronze dans leurs catégories respectives.
Merci Jérôme Lacroix, à tout à l'heure.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et voici le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 610 Forain Génilou. Intermittent, il n'a cependant pas raté son retour à Vincennes le 6 novembre, un hippodrome qu'il n'avait pas fréquenté depuis le 11 février dernier, date de sa dernière victoire. Il s'est donc une nouvelle fois imposé sur une piste qui correspond parfaitement bien à ses aptitudes et le style de son succès me laisse à penser qu'il devrait une nouvelle fois doubler la mise, ayant visiblement de la marge. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 10, Forain Génilou.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1.
Il est 5h15 sur Europe 1, bon réveil, merci de nous rejoindre. Les histoires que nous avons repérées dans la presse sont à suivre. Le pressing du matin avec vous Ambline, qu'est-ce que vous avez repéré? Des conseils pour bien choisir son sapin?
Ah bah oui, que les familles se rassurent, il va pouvoir trôner dans votre salon. Et si cette année l'arbre était un arbre bio?
Ah, le sapin bio ça existe.
Oui, bon. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Vous nous expliquez ça, les sapins qui seront en vente dès aujourd'hui, c'est autorisé désormais. Puis on vous racontera à quel point le piano peut nous faire du bien et même nous soigner. Vous allez voir, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h16, la pression décroît sur l'hôpital en France. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid est en nette baisse, 500 de moins en 24 heures. Ils sont toujours tout de même à 32 300 au total, dont 4 600 en réanimation. Aux assises de Haute-Saône, Jonathan Daval a reconnu avoir volontairement tué sa femme Alexia. Quand on étrangle quelqu'un comme ça, dit-il, c'est pour donner la mort. Le procès qui a pris du retard pourrait déboucher sur un verdict au plus tôt samedi soir. Joe Biden conforté après un recomptage des voix dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Le démocrate attaque Donald Trump. Il est difficile, dit-il, de comprendre comment cet homme raisonne. Ce qu'il fait est tout simplement scandaleux, dit Joe Biden.
Europe 1.
Allez, c'est l'heure du pressing du jour. On ouvre les journaux du matin. La coup d'œil aux une d'abord, avec la fin de ce feuilleton. Tous d'accord pour repousser le Black Friday. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'économie a donc obtenu d'Amazon et de la grande distribution un report d'une semaine au 4 décembre. Conséquence immédiate, l'ouverture des commerces se profile. C'est le titre des Échos. Les magasins pourraient rouvrir dès la semaine prochaine, sans promotion le premier jour pour éviter une ruée trop massive des clients. En attendant, c'est bien le e-commerce qui est boosté par le contexte de confinement. Amazon, grand gagnant de la crise, c'est le titre de La Voix du Nord. Et La Provence raconte ce matin la guerre des colis. Les acteurs de la livraison en première ligne, La Poste par exemple, va devoir traiter en fin d'année 4 millions de colis par jour. C'est un feuilleton qu'on suivra évidemment. Gardez le moral, on en parlait ici même hier. Varmatin promet aujourd'hui des conseils anti-déprime pour mieux supporter cette période. Pensez à Noël, peut-être ça peut aider. Il y a des sapins à la une de vos journaux ce matin. 150 000 sapins en transit à Romorantin, convoi exceptionnel à la une de la Nouvelle République, sur un gros camion en photo. Le gouvernement a donc autorisé la vente dès aujourd'hui. Des sapins aussi à la une du Télégramme avec ce titre « Noël malgré tout ». Voilà pour les unes ce matin. Voici donc les trois histoires à présent qui ont attiré notre attention. Et on parle justement de sapins avec vous, Ambline.
Oui, mais quel sapin ? Et si à Noël, vous choisissiez un sapin bio, demande Libération. En France, moins de 1% des sapins de Noël proviennent de l'agriculture biologique. Effectivement, c'est pas beaucoup. Des producteurs dans l'Ariège sont d'ailleurs en train de monter une association pour rassembler producteurs, distributeurs et consommateurs. Et ils nous disent que le sapin bio, en fait, ça coûte pas plus cher, entre 30 et 35 euros. La main d'œuvre est certes plus importante, mais ils ne dépensent rien en produits phytosanitaires. En fait, ce sont ces produits qui peuvent poser problème, même si les agriculteurs aujourd'hui limitent le plus possible leur utilisation. Un sapin sur quatre provient du massif du Morvan, vous savez, au cœur de la Bourgogne. Sachez qu'on ne déforeste pas pour planter des arbres de Noël. Ils dépendent des terres agricoles. C'est donc sa culture intensive qui peut alerter. Les arbres sont coupés entre 5 et 10 ans. Et plus vous récoltez, plus vous épuisez les sols, plus vous utilisez des produits phytosanitaires, ce qui peut aussi gêner les parcelles voisines, surtout quand il y a autant de sapins au même endroit. Alors, on n'est pas là pour casser l'ambiance. À l'ONG France Nature Environnement, on nous dit « si acheter un sapin de Noël n'est pas très écolo, ce n'est pas non plus un drame pour la planète. Et il y a pire que le sapin naturel, le sapin en plastique, pétrole. Oui. »
Fabriqué en Chine.
Voilà, il faut le garder 20 ans. Pour que son bilan carbone devienne favorable d'après une étude québécoise. Voilà, un bio-sapin pour Noël, c'est un jeu de mots signé Libération.
Et donc il y a des sapins qui sont labellisés bio,
oui,
on
bio.
Les trouvera dans les magasins
dans les
et chez les fleuristes, donc peut-être dès aujourd'hui, puisque l'autorisation vaut dès aujourd'hui.
Garantie sans produits phytosanitaires.
Sur la côte atlantique, à présent, on parle de l'érosion du littoral. Ce matin, le journal Ouest France alerte « L'argent va manquer face à la montée de la mer ». 10 ans après la tempête Xynthia, qui, on s'en souvient, avait entraîné des submersions meurtrières en Vendée, l'État s'est bien doté d'outils, de planification, mais il manque un fonds d'indemnisation qui serait dédié à l'adaptation du littoral. Le niveau des mers va monter possiblement jusqu'à 82 cm d'ici à la fin du siècle. Et avec l'érosion qui grignote déjà les côtes, certaines zones vont très vite devenir inhabitables. Exemple à Biscarrosse, dans les Landes. L'Atlantique rogne déjà les fondations d'un hôtel et d'un immeuble. Il y en a pour 8 millions d'euros pour indemniser les propriétaires qui vont devoir être relocalisés. Alors selon les études, ce sont plus de 21 000 logements qui sont concernés par cette élévation du niveau de la mer au moins d'un mètre. Et il faudrait plus de 3,5 milliards d'euros pour les indemniser. Qui va financer ? Pour l'instant, rien n'est prévu. Aucun fonds n'a été créé. Les collectivités n'ont pas les moyens, explique Ouest France. Un premier projet de loi est tombé dans l'oubli. Un autre a été présenté en Conseil de défense écologique au mois de février. Et depuis, plus rien. Le Covid est peut-être passé par là. Le rapport d'un député vendéen propose de financer ces indemnisations par des prélèvements sur chaque transaction immobilière dans une bande de 20 km le long de la mer. Il est en tout cas urgent de trouver des solutions. On comprend aussi que l'aménagement du littoral est une question sensible dans ces régions. Il y a quand même des habitants qui sont attachés à leur maison, qui n'ont pas forcément envie de partir et qui préfèrent qu'on construise des digues. Et puis il y a aussi parfois des terres agricoles. C'est un dossier à lire dans Ouest France ce matin. Paul, c'est pas Amblin qui va nous contredire. Ah. La musique nous fait du bien.
Ah oui.
Oui, le HuffPost nous emmène en Italie, à l'hôpital d'Ancone. Pardon.
Non, c'était pour vous embêter.
Ah, pardon. Où les chirurgiens utilisent une méthode surprenante pour apaiser leurs patients. Le site d'information nous raconte l'opération menée par l'équipe dirigée par le docteur Roberto Trignani, opération subie par un petit garçon de 10 ans atteint d'une double tumeur de la moelle épinière. Et alors que l'anesthésie générale commence à faire effet, voilà ce qui se passe dans le bloc opératoire. Du piano. Oui, parce que pendant l'opération, un pianiste a accompagné musicalement les chirurgiens. Et c'est plutôt utile, nous dit-on, puisqu'à l'aide d'un électroencéphalogramme, le personnel médical a surveillé l'activité cérébrale du petit garçon et a pu constater qu'elle était modifiée quand le pianiste s'arrêtait de jouer, puis lorsqu'il reprenait. Et même à l'issue de l'opération, le petit garçon a lui-même confirmé avoir entendu les notes de piano alors qu'il était sous anesthésie générale. Alors les médecins ont déclaré que l'opération s'était très bien passée, que la double tumeur avait bien été retirée. Ils attendent désormais de nouveaux examens pour savoir s'ils vont devoir opérer à nouveau le jeune garçon. En tout cas, il faut savoir que cette musicothérapie qu'on entend ici, c'est un phénomène qui se développe aussi en France. Par exemple, à l'hôpital Cochin à Paris, puisque les anesthésistes utilisent la musique pour limiter l'utilisation d'anxiolytiques et aussi pour permettre une meilleure récupération après certaines interventions chirurgicales.
On se souvient aussi, on a tous vu cette vidéo de cette dame atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui entend la musique du Lac des Cygnes et qui d'un seul coup
se remet à danser. Oui.
C'est fou. Alors, écoutons un peu de piano, un petit peu de thérapie là. Vous sentez comme ça fait du bien là sur le cerveau.
Ça détend. Ouais.
Il était présent alors. C'était pas un disque en plus.
Non, il était là. Ouais. Un gros piano ça à queue aussi, à côté de la salle.
Merci à tous les deux. Ouais. Il est 5h23 sur Europe 1.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Allez, direction Rungis ce matin pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Boris Richeux.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes le patron de Bratigny au pavillon des fruits et légumes dans ce plus grand marché d'Europe. Comment allez-vous en ce vendredi matin?
Et je vais très bien, Sébastien, et j'espère que vous et toute l'équipe aussi.
Tout va bien. C'est vendredi, j'imagine qu'il y a une grosse activité. Est-ce que vous sentez un effet de cette période de confinement? On fait tous un peu plus de courses en ce moment. Ça se ressent?
Pas forcément. Je dirais qu'on est sur une période où les gens, de toute façon, consomment les fruits de saison. Donc, pas du tout ce qu'on a pu vivre sur la première période de confinement, mars, avril, début mai.
D'accord. On est bien rentré dans l'automne, vous parlez de fruits de saison, la saison évolue aussi pour les fruits là en ce moment.
Ah tout à fait, là on a basculé, maintenant on est en plein cœur de la saison des agrumes, on a rentré les kakis, on sent vraiment une émulation sous-tendant des fruits exotiques en prévision des fêtes de fin d'année. Et aussi le produit français par excellence, le fruit consommé le plus par les Français chaque année, la pomme et son cousin éloigné, la poire.
Alors, qu'est-ce que vous avez en ce moment, en pommes et en poires?
En ce moment, on est en plein cœur de notre saison. Ce qu'on adore, moi personnellement, c'est nos producteurs locaux. Donc, on a travaillé avec deux sociétés, trois générations de producteurs de pommes et de poires en Île-de-France et juste au bord de l'Oise, à la limite du Val-d'Oise. Je vais vous donner les noms, Verger de Molien, Verger de Sennevières. Ça fait rêver, ça donne envie et en plus, c'est très, 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 très bon.
Quelle variété vous préférez?
Alors moi, en ce moment, sur la poire, j'ai un gros coup de cœur pour la comisse, et en particulier la comisse rouge. C'est une poire d'antan, c'est une poire qu'on a fait renaître dans nos vergers. Ouais. Elle est bonne, elle est goûteuse, elle a vachement de sucre en ce moment en plus. Et j'ai donné un petit conseil à nos auditeurs. Si vous voulez savoir comment j'ai une poire, vous allez la toucher en haut, près de sa pédoncule. Et si vous voyez que ça commence légèrement à être mou, là, votre poire, elle est affinée, vous pouvez la manger.
Alors, justement, tiens, une question de pur consommateur. C'est vrai qu'on a souvent un problème avec les poires, c'est qu'elles, souvent, elles sont quand même vendues pas mûres du tout. Elles sont souvent très dures.
Alors, la poire, c'est ce qu'on appelle un fruit climactérique. C'est-à-dire que c'est un fruit qui va commencer à mûrir en dehors de son arbre. Donc, vous n'aurez jamais une poire mûre chez un bon primeur, parce que dans ces cas-là, il vous vendrait quelque chose qui ne tiendrait pas. Donc, mon conseil, c'est que la poire, comme je vous le dis depuis beaucoup d'émissions à chaque fois, c'est déjà surtout jamais dans un frigo. D'accord. Vous la laissez 2-3 jours se ramollir et s'affiner dans votre cuisine. Et je vous dis, dès que vous voyez au bord du pédoncule, sur le haut de la poire, que ça commence à être un peu mou, c'est le moment de la manger. Elle sera pleine de sucre et vous aurez ce côté sirop sur la poire affinée qui est toujours délicieux.
Voilà, on les achète un peu à l'avance et on les garde à la maison le temps qu'elles mûrissent. Merci Boris Richeux pour ces quelques conseils. À très vite dans Les Doigts dans l'Assiette à Rungis. À bientôt.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol, il fait pas chaud ce matin, hein, ça a baissé.
Non, non, je disais tout à l'heure, effectivement, ça sent un petit peu l'hiver. Oh, pas beaucoup, faut pas exagérer, mais nous avons des négatifs. Du négatif en Sologne, à Guéret, à Blois, au Mans, à Saint-Quentin, entre moins 1, 0, plus 1 degré. 2 degrés à Châteauroux, 3 degrés à Belfort, 4 à Paris. Paris baisse. Bah, 4 à Bordeaux, à Clermont-Ferrand et Limoges. 5 à Toulouse, ça baisse aussi. 6 à Brest, 7 à Lyon, 9 à 10 degrés à Narbonne. Alors, dans la journée, bah, ça baisse aussi, hein, entre 8 et 12 degrés, décidément. Nous sommes vraiment dans un autre type de temps, c'est tout à fait logique. Le ciel s'est dégagé, quand même, sur la France, au point que nous aurons probablement un temps globalement ensoleillé, ce qu'on peut appeler un beau temps nuageux. J'y reviendrai tout à l'heure sur les 2/3 du pays, excepté près des côtes de la Manche, excepté aussi sur les Alpes ce matin. On voit cela tout à l'heure.
À tout à l'heure, Laurent.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, bon réveil. Merci de nous rejoindre dans le 5-7. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Il a reconnu, si je l'ai bien entendu, l'intention homicide. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Après, il faudra un moment aussi que les victimes l'acceptent. On n'ira pas plus loin.
L'avocat de Jonathan Daval, après l'aveu glaçant de cet homme qui reconnaît avoir voulu donner la mort, retour sur une audience particulièrement éprouvante devant les assises de Vesoul. Le Black Friday devrait bel et bien être décalé d'une semaine. Hier soir, le patron d'Amazon France a accepté le principe. Bonne nouvelle pour les magasins qui pourraient ainsi rouvrir dès le 28 novembre. Au cœur des préoccupations, le protocole sanitaire, nous irons à Saint-Étienne où une grande surface fait passer ses clients sous un portique désinfectant. Et puis du foot féminin ce soir, le PSG reçoit Lyon au Parc des Princes alors que la sélectionneuse des Bleus Corinne Diacre est en ce moment sur la sellette.
Elle est sage-femme et elle estime être devenue maltraitante envers les femmes qui accouchent. Dans une vidéo, Anna Roy dénonce des conditions intenables faute de personnel dans les salles d'accouchement. Son cri d'alarme publié sur Europe1.fr fait tache d'huile sur Internet. Plus d'un million de clics déjà. Elle lance aussi une pétition et elle témoigne juste après ce journal. Et puis on retrouvera Jérôme Lacroix pour La France Bouge. Bienvenue à tous, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
D'abord direction les assises de Haute-Saône où ce vendredi aurait dû être le dernier jour d'un procès hors norme, celui de Jonathan Daval accusé d'avoir tué sa femme. En fait, les auditions ont pris du retard et le verdict ne sera pas rendu avant demain.
Hier, la journée a été particulièrement éprouvante avec le récit du meurtre d'Alexia, comme nous le raconte Arthur Mbaché qui suit ce procès à Vesoul pour Europe 1.
Je l'ai saisie par le cou, j'ai serré et quand j'ai senti qu'elle s'affaissait, j'ai lâché. Le président de la cour demande à Jonathan Daval « C'est la mort que vous vouliez ?» Ben oui. Qu'elle se taise à jamais ? Oui. Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort. Les parents d'Alexia pleurent et ce terrible aveu ne leur suffit pas, dit leur avocat Gilles Jean Portejoie.
On a l'impression qu'il est ailleurs en fait. Il est absent de son procès. Oui. On sait qu'il y a un massacre, les faits sont horrifiants et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel a été le phénomène déclenchant. C'est ça qu'on veut savoir.
Jonathan a tout dit, il n'a pas d'autre vérité, d'après son avocat Randall Schwerdorfer.
Il a reconnu, si je l'ai bien entendu, l'intention homicide. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut la vérité ou on veut une histoire? Il dit qu'il a voulu la faire taire, il dit qu'il était hors de lui, que tout est sorti à ce moment-là et que quand il a repris ses esprits, suite à ses coups et suite à son étranglement, elle était morte. Après, il faudra un moment aussi que les victimes l'acceptent. On n'ira pas plus loin.
Aujourd'hui sera entendu à la barre, entre autres, la mère de Jonathan Daval. Vesoul, Arthur Elmaché, Europe 1.
Et à 7h40, le tête-à-tête de Mathieu Béliard. Il reçoit ce matin Isabelle Fouliot, la mère d'Alexia Daval.
Amazon accepte de décaler le Black Friday prévu le 27 novembre. Son PDG l'a annoncé hier soir sur TF1.
La grande opération prix cassé pourrait donc se dérouler le 4 décembre. C'était la condition pour que les petits commerçants puissent rouvrir dans une semaine. De quoi satisfaire Jacques Cressel de la Fédération du commerce et de la distribution.
La décision prise par les distributeurs de reporter le Black Friday et que Amazon a rejoint hier soir est une position qui doit permettre une réouverture le 27 ou le 28 novembre de l'ensemble des magasins. C'est en tout cas comme cela que cela nous a été présenté par le gouvernement en disant qu'il n'était pas possible du point de vue sanitaire qu'il y ait à la fois la réouverture le 27 ou le 28 et une opération promotionnelle importante. Et c'est ça qui nous a conduit à accepter ce report. Ah non, nous respirons lorsque la décision sera annoncée, on l'espère officiellement par le président de la République en début de semaine prochaine, de rouvrir tous les magasins. C'est essentiel pour la survie du commerce, c'est essentiel pour faire en sorte que les courses de Noël se passent au mieux, que les Français aient de nouveau accès à leurs produits. Ça n'est qu'une première étape qui est en train d'être franchie.
Le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution au micro de Pierre Herbulot.
Et les magasins qui se préparent à rouvrir devront respecter un protocole sanitaire encore plus sévère.
Dans la Loire, à Saint-Étienne, un hypermarché teste déjà un portique anti-Covid, la Sanibox, un peu comme les portiques des aéroports, mais en version désinfectant. Jean-Luc Boujon est allé voir à quoi ça ressemblait.
La Sanibox ressemble à un portique d'aéroport. Elle est installée à côté du portillon d'entrée. Aucune obligation pour les clients de l'utiliser ou pas. En tout cas, une hôtesse leur explique à quoi ça sert et comment ça marche.
Madame, est-ce qu'on vous expliquait le fonctionnement de notre cabine ? Nous venons d'installer ça. Donc, vous vous présentez devant la cabine.
Il y a donc trois étapes. 1. Une caméra prend votre température.
Température normale.
2. Vous mettez du gel dans vos mains. 3. Vous passez sous le portique et là, vous êtes brumisé et désinfecté, explique Anne-Claire Bonnet, la directrice de l'Intermarché de Saint-Étienne Bellevue.
La brume qui est pulvérisée est 100% naturelle, faite à base d'eau. L'idée, c'est qu'elle fasse tomber les particules et que les UV détruisent ces particules. C'est la certification qu'a donnée l'ARS Santé, ce pourquoi aussi je me suis laissée séduire. Je trouve que c'est plutôt à l'heure actuelle quelque chose de bien, aussi pour mon personnel.
Environ 8 clients sur 10 acceptent de jouer le jeu, à l'image de Jocelyne.
C'est une précaution en plus, une idée de sécurité, donc bah, pour nous, c'est une bonne solution.
Coût de l'investissement, 10 000 euros, ce n'est pas rien, mais la directrice estime que le jeu en vaut la chandelle, d'autant que la technologie de cette Sanibox est française, l'entreprise étant basée dans les Alpes-Maritimes. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Même si les indicateurs s'améliorent, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a prévenu hier soir que le confinement n'était pas terminé et qu'il n'était pas d'actualité de déconfiner le pays.
5h36 sur Europe 1, le fameux article 24 de la loi sur la sécurité globale au cœur d'une polémique doit être examiné aujourd'hui à l'Assemblée. C'est cet article qui est interdit de diffuser les images de policiers ou de gendarmes.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est finalement obligé de reculer. Il va proposer un amendement pour garantir la liberté de la presse. Une décision prise hier soir lors d'une réunion d'urgence à Matignon. Il fallait calmer le jeu. Adrien Beck.
Gérald a voulu pousser son avantage un peu trop loin, constat d'un ministre, résultat, une polémique avec l'opposition, une partie de la presse et même des membres de la majorité. Finalement, dans le rôle du pompier, c'est Jean Castex lui-même qui est intervenu, reprise en main très claire, réunion des responsables de la majorité hier soir à Matignon, et c'est Matignon encore qui a annoncé qu'un amendement serait présenté. Il mentionnera le droit d'informer avec l'espoir d'éteindre la polémique, lever les ambiguïtés, dit le communiqué. Gérald Darmanin avait pourtant défendu jusqu'au bout cet article dans sa version initiale. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, il a été volontairement flou pour faire plaisir à ses troupes, constate un poids lourd du gouvernement. Avec cet épisode, Jean Castex, lui, tente de confirmer une nouvelle fois qu'il est aux commandes et que c'est bien lui et lui seul qui a le pouvoir de trancher.
Adrien Beck.
Le foot et les deux PSG jouent ce soir, les hommes à Monaco. Mais pour une fois, on s'intéresse un peu plus aujourd'hui aux femmes. Elles affrontent l'Olympique Lyonnais et c'est au Parc des Princes.
Une rencontre dans un contexte de tension en équipe de France féminine autour de la sélectionneuse Corinne Diacre. Hier pourtant, Julien Froment, l'heure était à l'apaisement.
On attendait la petite phrase sur le climat en équipe de France, mais il n'en fut rien. La capitaine des Lyonnaises et figure des Bleus, Wendy Renard, qui maîtrise à la perfection sa communication, a préféré botter en touche.
Voilà, il y a eu des discussions, on a parlé, donc on ne va pas rajouter des tonnes à chaque fois ou quoi que ce soit, ce n'est pas le but. Vendredi soir, on a un match important et on a surtout, en cas de victoire, on peut être au classement, on peut être très bien, donc c'est juste ça.
Le Paris Saint-Germain, lui, n'a pris aucun risque. C'est une joueuse allemande qui a été envoyée devant la presse pour protéger les internationales françaises de toute polémique, nous a-t-on expliqué au club. C'est donc le coach Olivier Chouafny, prédécesseur de Corinne Diacre chez les Bleus entre 2015 et 2017, qui s'y est collé.
J'espère de tout cœur, sincèrement, que cette équipe de France puisse retrouver un peu plus de sérénité. Je pense qu'elle en manque cruellement et ça fait mal de voir tout ça. Donc il faut se recentrer sur les choses importantes. Les choses importantes, c'est le terrain.
Signe que ce match et que le contexte surtout intéressent plus que d'habitude. Au total, 40 journalistes sont accrédités pour cette affiche qui, espérons-le, redorera l'espace de 90 minutes l'image du football français féminin.
PSG-OL, c'est donc ce soir à 21h au Parc des Princes. Le foot féminin phénomène depuis maintenant quelques années, depuis le mondial en France notamment. On va en parler à 6h15 avec mon invité inattendu, qui est une actrice, mais une actrice fana de foot. Vous soupçonnez peut-être pas cette passion, elle vient nous raconter tout à l'heure à 6h15. C'était le journal d'Hélène Zellani, il est 6h20. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
Direction Vincennes pour un quintet en semi-nocturne et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic le numéro 8, Forum Mélois, qui reste sur une facile victoire le 2 novembre à Vincennes, obtenue de bout en bout à la manière des forts. Je sais que cette tactique sera une nouvelle fois employée ce soir et il n'y a donc aucune raison pour qu'il ne puisse pas rééditer. Derrière ce bon favori, il est logique de retenir les numéros 10, Fakir du Donjon, 6, Franklin de Mêlée et 2, Fahrenheit Flower, classés respectivement aux 2e, 3e et 4e places en dernier lieu, à distance de Forum Mélois. Ils n'ont certes aucune chance de revanche, mais ils doivent automatiquement figurer dans une sélection. Enfin, les numéros 14, Fakir de Mahé, déféré des 4 pieds pour la première fois. 16, Fragonard de l'eau, idéalement placé. 15, Fleur d'Acadie, chuchoté. Et 11, Forban, préparé pour, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 10, 6, 2, 14, 16, 15 et 11.
Merci Thierry Léger. On retrouve bien sûr tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille la première invitée du 5-7. Bonjour Anna Roy.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes sage-femme à Paris. Certains de nos auditeurs peut-être vous connaissent par votre podcast Europe 1 Studio qui s'appelle Sage Meuf. Vous étiez déjà venu dans le 5-7 nous en parler. On a voulu vous redonner la parole ce matin parce que vous avez lancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux une sorte de cri d'alerte sur la situation à l'hôpital dans les salles d'accouchement. Avant qu'on en parle ensemble, je voudrais qu'on en entende un extrait.
Tout d'un coup, je me dis, mais en fait, tout est maltraitance dans cette garde, tout. Il n'y a rien qui ne soit pas maltraitance. Et je me dis, mais qui est maltraitant? Ben en fait, c'est moi. En fait, c'est moi, Anna Roy, qui suis maltraitante.
Et cette vidéo, qui a notamment été publiée par Europe1.fr, est depuis massivement relayée. On est au-delà du million de vues en l'espace de quelques jours. Dans ce témoignage face caméra, on l'entend, vous dites que vous êtes devenue maltraitante. C'est un terme extrêmement dur, ça, pour une sage-femme, de se dire qu'on est maltraitante.
Ah, je crois que ça peut pas être pire, parce qu'une sage-femme qui est là dans la symbolique, surtout auprès des gens, qui est de se dire qu'on donne la vie, et d'avouer ça, enfin, c'est absolument terrible. Et vous savez, même il y a quelques années, même quelques mois, jamais j'aurais dit ces mots. Jamais, 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 au grand jamais, j'aurais pensé pouvoir prononcer ces mots.
C'est parti de quoi ?
La vérité. C'est parti d'un récit que je fais, je retrouve une photo pour faire la promo de mon épisode de Sage Meuf. Et tout d'un coup, j'écris la garde qui était reliée à cette photo. Et je me dis, ah, le système est maltraitant. Oh, le système est maltraitant. Et j'étais là, mais en fait, non, Anna, c'est toi qui poses les actes. Alors c'est vrai que c'est le système qui me maltraite, qui fait que je maltraite. Mais de fait, c'est moi qui pose les actes.
C'est une nuit de garde au cours de laquelle vous avez dû faire des choix et des choix extrêmement difficiles.
Voilà, où je devais être partout, partout à la fois. Et malheureusement, je n'ai pas le don d'ubiquité et donc je ne peux pas être partout à la fois. Et donc, je laisse des gens dans des situations, en particulier une femme qui a couché sans péridurale et qui n'avait pas la chance d'être accompagnée par un futur papa, qui donc était très seule. Et je l'ai laissée hurler de douleur pendant plus d'une heure et demie.
Parce qu'il y avait une autre urgence, encore plus urgente.
Exactement, et que donc dans ces cas-là, on priorise, en fait, c'est horrible de dire ça, mais on priorise les actes. Et donc j'ai laissé cette femme, et j'oublierai jamais, enfin, cette femme était vraiment très affectée de ça, je m'en suis excusée, bien sûr, je lui ai demandé pardon. Et le pire, c'est qu'elle a trouvé que j'avais été formidable, mais je l'avais pas été.
Et cette situation, elle se reproduit souvent, plusieurs accouchements difficiles à gérer en même temps,
par une seule sage-femme?
Bien sûr, en fait, ça se reproduit assez souvent. Alors, il ne faut pas inquiéter les futures mamans qui nous écoutent, ce n'est pas la question. Mais là, il suffit de voir les témoignages qui affluent de sage-femmes, mais même d'infirmières qui me disent « Mais moi, Anna, je suis seule pour 24 patients dans mon service post-chirurgical. Mais comment voulez-vous que je ne sois pas maltraitante ?»
Alors, ça, vous le dites, ça fait très largement écho en quelques heures, en quelques jours. Ça fait boule de neige sur les réseaux sociaux. Il y a un mot qui est repris, donc c'est le « je suis maltraitante » qui devient finalement une sorte de mot d'ordre, de cri de ralliement de toutes les sages-femmes de France aujourd'hui.
Mais pas que, hein, et des infirmières et des sages-femmes. Alors là maintenant, moi je suis un peu encombrée avec cette histoire. Donc c'est lourd à porter pour une seule personne. Et là, je voudrais que ça se, voilà, que ça se diffuse et surtout filer le bébé, quoi.
Le fait que ça fasse écho aussi vite, avec plus d'un million de vues sur les différents supports que vous avez publiés, ça prouve aussi que c'est une situation qui existe partout.
Et c'est terrible parce que les témoignages affluent de situations où on voit c'est vraiment qu'une question de surcharge de travail. C'est pas des violences volontaires, c'est vraiment des sages-femmes débordées qui peuvent pas être partout à la fois et qui n'ont pas le don d'ubiquité.
C'est très alarmant ce que vous dites sur la situation de l'hôpital public et des maternités, et ça doit évidemment interpeller toutes les femmes enceintes qui nous écoutent. Est-ce qu'une femme en France, quand elle va accoucher à l'hôpital public, elle prend un risque aujourd'hui?
Non, absolument pas. Je pense que non, parce que les sages-femmes sont des personnes extrêmement performantes, et ça, tout le monde vous le dira. Elles ne prennent pas de risque, non. Mais par contre, elles prennent un risque psychique, ça oui. Je crois que dire aux femmes que ça va être cuicui, les petits oiseaux, le pays des bisounours, c'est que ça va être super. Non, ça, on va pas pouvoir dire ça. Moi, quand mes patientes à moi que je prépare en libéral pour accoucher, je leur dis attention, il peut y avoir des situations de violence parce que la sage-femme est débordée, quoi.
Et vous lancez une pétition sur Internet, elle est déjà lancée d'ailleurs, et là aussi le nombre de signatures monte très vite, on est déjà à près de 10 000 pétitions pour réclamer une seule sage-femme pour chaque femme qui accouche à l'hôpital. C'est un mot d'ordre très clair, c'est faisable?
Oui, vraiment c'est faisable. Ça, on m'accuse d'être une utopiste, pas du tout. Hein. Là, les Anglais, je le répète, les Anglais, les Finlandais, il y a plein de pays du Nord, la Suisse, enfin, il y a plein de gens tout à fait normaux qui ont réussi à faire ça et qui sont très intéressés par la dépense publique et par le fait de pas trop dépenser d'argent. Ça ne coûtera pas très cher, une mesure comme ça ne coûtera pas très cher à la société. Parce qu'on aura moins de dépression du postpartum, on aura moins d'événements traumatiques, post-traumatiques après. Donc en fait, on va gagner de l'argent. Moi, je suis persuadée que c'est une mesure qui fera gagner de l'argent. Surtout au prix où sont payées les sages-femmes, je vais vous dire, on n'est pas très cher. Hein.
Vous avez eu des échanges depuis avec les autorités, je ne sais pas, avec l'administration, avec votre hiérarchie à l'hôpital, des retours?
Alors, j'ai beaucoup de retours de collègues, oui, et j'ai moi-même pris contact et je suis en contact avec le Conseil national de l'ordre et le Collège national des sages-femmes en particulier, qui préparent des chiffres et qui vont pouvoir prouver que ce one-to-one, cette espèce une sage-femme par femme, c'est quelque chose de très sensé et de très valable sur le plan médical, que c'est pas une lubie, voilà.
Si vous voulez adresser un message au gouvernement, au ministre de la Santé ce matin sur Europe 1, vous lui dites quoi ?
Monsieur Véran, je suis sûre que vous êtes capable de comprendre ça. Il nous faut une sage-femme par femme. Vous le savez, c'est pas du tout un truc délirant. Et à mon avis, c'est pas grand-chose. Ça fera économiser de l'argent et beaucoup de trauma chez les femmes. Donc il n'y a qu'à faire voter. C'est tout. C'est très facile. Très, très facile.
Merci beaucoup, Anna Roy, pour votre témoignage ce matin. J'invite ceux qui nous écoutent à aller voir votre vidéo sur europe1.fr. Merci beaucoup. Et on retrouve votre podcast qui s'appelle Sage Meuf. Podcast Europe 1. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe 1.
Il est 5h47 sur Europe 1. Et on va voir un peu de positif à présent avec vous, Jérôme Lacroix. C'est La France Bouge. On met en lumière chaque matin de belles initiatives à travers la France. Où est-ce que vous nous emmenez?
Un triangle de cœur d'or entre Paris, Lyon et Grenoble ce matin. Je vous raconte l'histoire du jeune pharmacien et étudiant qui accumule les années d'altruisme. Ces petites brindilles de collecte solidaire de matériel médical sont devenues un arbre solide de générosité.
Ils font bouger la France et on les met à l'honneur chaque matin sur Europe 1 avec Jérôme Lacroix. A tout de suite, il est 5h47.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h48 sur Europe 1. Le Black Friday devrait être décalé d'une semaine. Après Carrefour, Leclerc et Système U, Amazon donne à son tour son feu vert à ce report au 4 décembre. Réponse définitive lors de l'intervention d'Emmanuel Macron la semaine prochaine. Terrible aveu de Jonathan Daval devant les assises de Haute-Saône. Il a bien donné la mort volontairement à sa femme Alexia. Aujourd'hui, dernier interrogatoire de l'accusé et début des plaidoiries. L'Union européenne pourrait donner son feu vert au vaccin des Américains modernes. Moderna et Pfizer à partir de la mi-décembre. C'est ce qu'annonce la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et puis Joe Biden dénonce, je cite, l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump qui refuse toujours d'accepter sa défaite. La victoire de Joe Biden qui est confortée par le recomptage des bulletins dans l'État très important de Géorgie.
Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Jérôme Lacroix, la solidarité, la générosité, les initiatives constructives à l'honneur de La France bouge tous les matins. Aujourd'hui, l'histoire de ce pharmacien au grand cœur.
Il s'appelle Sami Taïb Boulafa, tout jeune pharmacien, étudiant en médecine et distributeur de bonheur. Des années qu'il s'investit dans la solidarité, son dernier combat, aider les femmes les plus démunies, il leur fournit avec son association du lait en poudre pour nourrir leur bébé. À l'origine de son investissement, on trouve une exaspération. Quand Sami Taïb Boulafa, plus jeune, était engagé en remplacement dans diverses pharmacies parisiennes, le gaspillage des produits pharmaceutiques lui donnait des vertiges. Alors, sans maudire ou presque, il récupérait divers produits, des kits médicaux, des savons, des lingettes, invendus, prêts à partir à la poubelle. Il les distribuait ensuite lui-même aux sans-abri.
Alors ça part d'une petite initiative personnelle et ça devient ensuite un projet de grande ampleur.
C'est devenu une association Pharma Solidaire. Au départ, seulement en Ile-de-France, mais désormais aussi à Lyon, à Grenoble. Sami Taïb Boulafa, lui, est en Ile-de-France et toutes les semaines, avec ses bénévoles, il fait la tournée des pharmacies et il récupère dentifrices, compresses, sérums physiologiques, mais aussi des attelles, des chevillères, distribué ensuite en camionnette directement à tous ceux qui en ont besoin ou au sein des structures d'urgence.
Et vous le disiez, depuis peu, Sami s'attelle à aider les mères les plus démunies.
Plus de 40 tonnes de lait en poudre récoltées ces derniers mois pour nourrir les bébés, récoltées grâce à la notoriété désormais de Pharma Solidaire, puisque les associations elles-mêmes se sont manifestées et leur ont transmis ces centaines de boîtes de lait. Pharma Solidaire, par ailleurs, plus que jamais nécessaire, essentiel en temps de Covid, puisqu'elle distribue aussi désormais masques et gel hydroalcoolique.
Voilà, il suffit parfois d'une petite idée. Et
une boule de neige vertueuse.
Voilà, une boule de neige vertueuse, exactement. Merci Jérôme Lacroix, à lundi. Paul Lassen, à présent, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ce matin ?
Un retour, celui d'un homme qui a bercé la jeunesse d'un grand nombre de Français, je pense pouvoir dire de nous trois, Jérôme et Sébastien. Mmh. Un homme qu'on connaissait plutôt en duo et qui vient d'annoncer qu'il ferait son retour. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Allez, je vous donne un indice.
Ah, c'est lequel des deux ? C'est pas sorcier.
C'est pas sorcier. Et Jérôme, c'est Jamy.
Jamy Gourmand.
Et voilà, il reprend les clés du camion pour nous proposer d'apprendre comme il sait si bien le faire. Le journaliste a donc annoncé le lancement d'un programme qu'il va proposer sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Et ça s'appelle Épicurieux.
C'est le nom de ma chaîne du savoir sur YouTube et aussi le nom d'une communauté, la vôtre, la nôtre, celle de toutes celles et ceux qui pensent que la curiosité n'est pas un vilain défaut. J'y explique avec bonheur et rigueur le monde qui nous entoure. Car j'adore apprendre, mais j'aime aussi transmettre. Le savoir est pour moi comme un énorme gâteau qui a encore plus de goût quand on le partage.
Voilà, un gâteau qu'on partage, des vidéos de vulgarisation, mais aussi des échanges prévus avec les internautes, il espère être un peu plus interactif. Et autre point important qu'on aborde beaucoup en ce moment, son idée, c'est de lutter contre la désinformation et les fake news, et donc le tout en apprenant. Donc pour les thèmes qu'il va traiter, ça ressemble beaucoup à ceux de la période C'est pas sorcier. Hein. La science, l'histoire, la géographie, l'environnement. Mais il ne veut pas s'arrêter là, notre ami Jamy. La marque Épicurieux pourrait se décliner sous la forme de podcasts, de programmes audiovisuels, et pourquoi pas des conférences, quand on pourra, bien sûr, en refaire de nouveau.
Ouais, il n'arrête pas, hein, Jamy, il publie des livres, il est à la télévision hein, toujours, hein, avec le monde de Jamy. Et puis,
il est très actif.
Déjà pendant le confinement, il faisait des petites vidéos dans son jardin, avec des petites expériences pour les enfants, c'était très sympa.
Est-ce qu'il y aura Marcel, le chauffeur du poids lourd ?
Je ne sais pas, il garde Marcel. Le suspense là.
Il manque.
Les réseaux sociaux, c'est chaque matin avec Paul Lassen sur Europe 1, il est 5h53.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
On de la traconte, votre rendez-vous chaque matin, chaque après-midi, pardon, à 14h sur Europe 1. Mais chaque matin, vous pouvez déjà anticiper, écouter l'histoire du jour en podcast sur Europe1.fr. Celle d'aujourd'hui, c'est les disparus de Fontainebleau à la Toussaint 88 dans la forêt de Fontainebleau. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme disparaissent au cours d'une randonnée. Leurs corps sont retrouvés criblés de balles et cachés sous des branchages. La suite, c'est dans le récit On de la traconte, à télécharger en podcast sur Europe1.fr. Allez, place à la musique, on ouvre la partition d'Omblin Roche. Chaque matin, l'histoire derrière une chanson ou derrière un artiste. Et ce matin, Omblin, vous nous racontez l'histoire du premier roi du rock'n'roll, Bill Haley, un roi déchu qui devra s'incliner et abdiquer devant le légendaire Elvis Presley.
Appelez ça de l'ingratitude ou de l'injustice, Sébastien. Bill Haley, victime de son physique disgracieux, à qui on préférera des figures plus photogéniques.
Alors il faut peut-être commencer par dire qu'il est assez difficile finalement de dater l'origine du rock'n'roll.
Et oui, c'est vrai, car ses influences sont multiples. Le rock se situe au croisement du blues et de la country, ajouté à ça un soupçon de swing et de jazz. On l'a dit, Bill Haley n'a pas vraiment la tête de l'emploi avec son visage poupin, sa mèche saturée en gomina et en forme de tourbillon qui tombe sur le front.
Il n'en reste pas moins un pionnier au début des années 50, sent le vent tourner. Mais
effectivement, Bill Haley joue une musique qu'on appelle Western Swing, reconnue comme étant l'ancêtre du rock'n'roll. Il comprend surtout très vite qu'il doit s'éloigner d'une certaine culture country avec ses accordéons et ranger ses tenues de cow-boy.
Bill Haley a mis au placard son chapeau et son pantalon à franges. Son groupe change de nom aussi.
Ils étaient de Saddlemen, les hommes en selle. Ils laissent tomber toutes ces considérations de garçon de ferme pour une vision plus astronomique. Bienvenue en 1952 à Bill Haley and his Comets. Vous apprécierez le jeu de mots sympathique. Et pendant 2 ans, les Comets se retrouvent sans aucun rival en face. Bill Haley incarne le rock'n'roll. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock. Le 12 avril 1954,
Bill Haley and his Comets enregistrent Rock Around the Clock.
En urgence, à la toute fin d'une session en studio, malgré l'impressionnant solo de guitare exécuté par Danny Cedron, la chanson peine à convaincre et elle est reléguée en phase B du disque 13 Women. Petit rappel, tiens, la phase B d'un disque, c'est le morceau qui accompagne la chanson destinée à être un tube. La phase A, un disque étant gravé bien sûr des deux côtés.
Oui, un disque vinyle, évidemment. Son salut, Rock Around the Clock, il le doit à un film.
Graine de violence de Richard Brooks. L'histoire raconte que pendant le tournage, le fils de l'acteur principal Glenn Ford ne jurait que par Rock Around the Clock. La chanson devient le générique du film et finit même par l'éclipser. Réédité immédiatement en face A, Rock Around the Clock se vendra à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong. We'll be right back.
Zéro de l'histoire du rock'n'roll pour beaucoup, le fameux Rock Around the Clock par Bill Haley and His Comets sur Europe 1.
Un immense succès qui paradoxalement sera le chant du cygne du groupe. Ces musiciens, les Comets, estiment ne pas être assez rétribués. Le rock deviendra ensuite beau, sensuel, rebelle, désignera un nouveau roi, Elvis Presley.
Vous savez danser le rock
Oui, j'ai passé le rock au bac, figurez-vous.
Oh, mais on aurait dû danser pendant cette chanson. Ouais, non, voilà. Mais je suis très mauvais, je ne sais pas faire. La partition d'Ambline, tous les matins sur Europe 1, juste avant 6h.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Et on retrouve Laurent Cabrol pour la météo. Ouais.
Bon, écoutez, après ce rock on the clock extraordinaire, nous commençons en surprise partie. Je vous donne des températures qui vont vous réchauffer. Tenez, un petit coup de rock'n'roll serait pas mal. Si vous êtes à Guéret, à Blois, au Mans, à Saint-Quentin, entre moins 1 et plus 1, 3 degrés à Besançon, 4 à Paris, 5 à Toulouse, 6, 7 à Lyon. Des températures froides, mais sans excès quand même, n'exagérons rien. Et dans la journée, entre 8 et 12 degrés. Ce sera un temps d'ensoleillement, généralement. On peut appeler ça un beau temps nuageux, avec pas mal de nuages par définition, mais aussi avec des soleils, excepté près des côtes de la Manche, où le ciel sera beaucoup plus couvert, et quelques gouttes de pluie même sur les côtes de la Manche, en particulier sur le Cotentin. Dans les Alpes, le Jura, attention, des petites chutes de neige ce matin à partir de 1000 mètres. Et en Corse, des orages. Mais dans l'ensemble, ce sera une journée plutôt agréable pour la saison.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1 en ce vendredi 20 novembre. Merci de vous réveiller avec nous tout de suite. Un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien. Bonjour à tous.
Il est précisément 6h.
Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020.
Le gouvernement lance une alerte à la vigilance dans les EHPAD. Un établissement sur 5 est actuellement touché par le coronavirus. Désormais, les personnels se feront dépister une fois par semaine. Le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour en France, on le sait, mais quelle est la situation chez nos voisins? Nous serons en Espagne, où la Catalogne se prépare à lever quelques restrictions. Dans ce journal, le Black Friday en passe d'être reporté au 4 décembre, mais attention aux arnaques et aux fausses promotions de certains commerçants. Ne jetez surtout pas vos masques chirurgicaux à la poubelle jaune. Ces déchets toxiques perturbent le travail dans les centres de tri. Et puis le 119, le numéro pour l'enfance, croule sous les appels depuis le reconfinement. 25% de plus par rapport au printemps dernier.
Après le journal, mon invité inattendu est une actrice dont vous ne soupçonnez peut-être pas la passion pour le foot. Toute petite déjà, elle tapait la balle dans la cour de récré avec les garçons. Elle nous raconte à 6h15. Aujourd'hui, le foot féminin prend enfin la lumière. Ce soir, les filles du PSG et de l'OL ont rendez-vous pour la première fois au Parc des Princes. Et puis on retrouvera Fanny Agostini pour Notre Planète. Bon réveil, bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout se joue maintenant pour que la deuxième vague ne ressemble pas à la première dans les EHPAD. Ça, ce sont les mots de la ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, hier soir lors du point hebdomadaire dédié à l'épidémie de coronavirus. Lors de la première vague, la moitié des établissements avaient été touchés. Aujourd'hui, 1600 EHPAD sont concernés, soit 1 sur 5. Mais la situation reste fragile.
Oui, en Isère, par exemple, en un peu plus d'un mois, 24 résidents sont morts du Covid, soit un tiers des pensionnaires. Pas question de supprimer les visites pour l'instant, mais le gouvernement souhaite renforcer le protocole sanitaire dans les EHPAD. Victor Delande.
Oui, les personnels des EHPAD seront désormais testés toutes les semaines. Le gouvernement a d'ailleurs commandé 1 600 000 tests antigéniques pour approvisionner les établissements. Les proches, eux, devront remplir un questionnaire avant de rendre visite à un résident. Ils seront invités à faire un test PCR 72 heures avant leur venue ou un test antigénique dans la journée. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est une simple recommandation. Autant de nouvelles mesures indispensables pour maintenir les visites, comme l'explique la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon.
Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Nous avons tout de suite fait le choix de ne pas suspendre les visites des proches. C'est un choix que nous tiendrons même si nous mesurons à quel point l'équilibre entre protection et lien social est délicat à assurer au quotidien sur le terrain.
Et pour soulager les personnels dans les EHPAD, épuisés par cette crise sanitaire, le gouvernement a demandé à Pôle emploi de lancer une grande campagne de recrutement. Une autre piste sur la table serait de proposer aux jeunes en service civique de s'engager dans ces établissements dans les prochaines semaines.
Pour l'heure, la baisse du nombre de patients en réanimation se poursuit. Même chose pour les arrivées à l'hôpital. Pour autant, le confinement n'est pas terminé, a prévenu Olivier Véran hier soir, appelant à poursuivre nos efforts.
Alors, quelle est la situation chez nos voisins? Nous allons en Espagne ce matin. Là-bas, chaque région gère ses mesures de restriction face à l'épidémie. La Catalogne va commencer à assouplir les siennes.
Oui, les autorités ont présenté hier un plan de déconfinement qui prévoit une réouverture partielle des restaurants et des cinémas. L'État, l'étau va donc se desserrer très lentement. Henri de Laguéry.
En Catalogne, on ne veut surtout pas répéter les erreurs du printemps dernier avec un déconfinement trop rapide. Ce plan comprend 4 phases et s'étalera sur 2 mois. Lundi prochain, après plus de 5 semaines de fermeture, les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients jusqu'à 21h30. Mais les capacités seront réduites. Jérôme Misan est patron d'un bar à tapas.
C'est une fausse bonne nouvelle. Ce qu'ils nous proposent, c'est d'ouvrir 30% du restaurant, 30% de la terrasse. C'est pas viable, donc nous, on a décidé de ne pas ouvrir. Le problème, c'est qu'on n'a aucune aide. C'est difficile.
Les cinémas et les théâtres pourront ouvrir à 50% de leur capacité. Il faudra attendre le 21 décembre pour entrer ou sortir librement de Catalogne. Pour Noël, les réunions passeront de 6 à 10 personnes, mais le couvre-feu entre 22h et 6h du matin sera maintenu jusqu'en janvier. Il ne faut pas se précipiter, répète le président catalan Pere Aragonès.
En aucun cas, nous ne permettons la reprise de la vie sociale. Il ne s'agit que d'assouplissement. Même si la tendance est positive, la situation reste grave. Nous devons tout faire pour éviter une troisième vague cet hiver avant l'arrivée du vaccin.
Cette prudence catalane tranche avec la situation de Madrid. Dans la capitale espagnole, tout est ouvert, il n'y a pas de restrictions de mobilité et pourtant, l'épidémie recule plus vite sans que personne ne parvienne réellement à l'expliquer. Barcelone, Henri de Laguéry. Europe 1.
Voilà pour cette stratégie, pas à pas étalée sur 2 mois dans la région de Barcelone. On s'y intéresse ce matin sur Europe 1 parce qu'elle pourrait peut-être inspirer la France. On en reparlera tout à l'heure à 6h40 avec le représentant de la Catalogne à Paris, Daniel Camos, qui sera mon invité. Le Black Friday, à présent, il sera reporté au 4 décembre. Le PDG d'Amazon France a accepté de décaler la date. Une réunion a lieu à Bercy aujourd'hui pour définir un accord avec les différents acteurs concernés.
Et à l'approche de cette vaste opération promotionnelle. Attention aux arnaques. L'UFC Que Choisir alerte sur des pratiques commerciales qu'elle juge trompeuses. 6 enseignes, dont Darty, la Fnac ou encore Cdiscount, sont mises en demeure par l'association de consommateurs qui demande à l'État d'encadrer leur campagne publicitaire. Alain Bazot, président du UFC Que Choisir.
Il se trouve que le Black Friday, c'est une opération d'illusionnisme à grande échelle. Ce sont des fausses promotions. Parce qu'il n'y a strictement aucun encadrement. Autrement dit, un professionnel sur une plateforme peut très bien artificiellement pendant quelques minutes augmenter le prix d'un frigo, le faire passer de 500 à 1000 et après au moment du Black Friday dire c'est pas 1000 mais c'est 500, 50% de réduction. Donc des réductions qui sont complètement bidons et ça c'est possible parce que la législation le permet. Il y a une situation économique très difficile et donc la recherche de la bonne affaire, c'est vraiment dans la tête de tout le monde. Et les consommateurs risquent de s'engouffrer dans de la consommation, de la surconsommation à outrance, sans réaliser de véritables affaires et en achetant peut-être des choses parfois un peu inutiles.
Alain Bazot du FC Que Choisir avec Hélène Terzian.
Il est 6h07 sur Europe 1. Attention, un avertissement ce matin. Attention à ne pas jeter vos masques chirurgicaux dans le bac jaune du recyclage.
Le message est martelé depuis le début de la semaine par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Les masques sont des déchets potentiellement contaminés. Ils doivent absolument être jetés dans la poubelle normale pour ensuite être incinérés. Les masques jetés dans les poubelles jaunes perturbent fortement le tri des déchets, comme l'a constaté Virginie Salmen dans ce centre de région parisienne.
Sur le tapis roulant, au milieu des déchets papier et carton, j'ai compté un masque toutes les 20 secondes en moyenne.
Regardez, il y a un masque qui passe, elle est obligée de le retirer.
Ce sont des hommes et des femmes qui les retirent à la main pour ne pas qu'ils polluent la matière qui part au recyclage. Ils ne devraient pas avoir à prendre ce risque, regrette Monique Calassi, cadre chez Veolia.
Ce geste-là, il est très compliqué à demander à nos trieurs. Parce que qui dit masque, c'est une contamination potentielle. On a fait une analyse de risque, on a mis en place plein de gestes barrières pour qu'ils puissent être protégés. Mais le geste reste assez difficile à faire parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont des familles, des enfants qui ont peur comme tout le monde.
Ils sont équipés de masques et de gants épais, mais Alphonsine, l'une des trieuses de la chaîne, n'est pas toujours rassurée.
J'ai 4 enfants, c'est pour ça aussi on est un peu réticente. On a peur aussi de ramener la maladie aussi à la maison. Les gens qui jettent, qu'ils fassent attention, de penser aussi aux gens qui travaillent derrière pour les enlever.
Et s'il y a trop de masques qui arrivent d'un coup sur le tapis roulant, certains trieurs demandent carrément à arrêter la chaîne. C'est déjà arrivé dans ce centre de Volpénie.
Un reportage signé Virginie Salmen. Dernière
ligne droite au procès de Jonathan Daval. Hier, l'accusé a reconnu pour la première fois avoir voulu tuer sa femme Alexia. Il sera interrogé une dernière fois aujourd'hui, mais le verdict ne sera pas connu avant ce week-end. Matignon promet un amendement pour faire évoluer le très critiqué article 24 de la proposition de loi Sécurité globale, garantissant ainsi que les dispositions envisagées ne feront nul obstacle à la liberté d'informer.
C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion de se pencher sur leur situation depuis le confinement.
Le bilan est difficile à établir, mais les actes de violence physique, sexuelle, psychologique sont nombreux le week-end, notamment lorsque les familles sont coincées chez elles. En tout cas, ce qu'on sait, Virginie Riva, c'est que les appels vers le 119, le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, eh bien ces appels ont augmenté de 25% depuis la fin du premier confinement.
Oui, avec 700 appels par jour pour signaler des négligences, des violences psychologiques ou physiques, les appels restent beaucoup plus nombreux durant ce deuxième confinement qu'à la même époque l'an dernier. Ça n'est pas forcément le signe qu'il y a plus de maltraitance durant ce mois de novembre, mais ce qui est sûr, c'est que depuis le premier confinement et l'explosion des cas de violences intrafamiliales, il y a plus de signalements, déjà de la part des victimes mineures elles-mêmes qui connaissent mieux le numéro d'appel, le 119, mais aussi des voisins qui osent davantage prendre leur téléphone pour alerter, une ressource précieuse pour Pascal Vigneron, directeur du 119.
Les voisins ont tendance à nous contacter, notamment parce qu'ils entendent des cris d'enfants ou des cris de parents. Mais souvent, on nous dit à quel moment on doit contacter les services du 119. Je dis toujours, dès lors que l'on se pose la question, c'est déjà qu'on a des éléments qui nous conduisent à faire penser qu'un enfant est potentiellement en danger.
À charge ensuite aux professionnels de l'enfance de qualifier la situation. Des voisins qui peuvent également remplir un formulaire en ligne sur le site s'ils ne souhaitent pas appeler directement. Le 119 ne les rappellera pas, mais transmet directement au département en charge de la protection de l'enfance en cas d'information préoccupante.
Aux États-Unis, Joe Biden dénonce l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump. Ce dernier refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle. Je suis convaincu qu'il sait qu'il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu'il fait est tout simplement scandaleux, a déploré le président élu Joe Biden. Et puis vous l'aviez vu à l'écran dans Interstellar ou The Dallas Buyers Club, l'acteur américain Matthew McConaughey se tourne vers la politique et envisage de devenir gouverneur du Texas, son état d'origine. Il l'a annoncé cette nuit au cours d'une interview à la radio. Mr. McConaughey,
allez-vous vous présenter pour être gouverneur du Texas ? C'est une réponse simple que j'attends, oui ou bordel, oui.
Je ne fais pas de politique. La politique semble être un vieux truc. Elle ne semble plus vraiment trouver son but. Mais alors que j'avance dans la vie, est-ce que je m'imagine dans un rôle où j'aurai des responsabilités ? Oui, j'adorerais.
Ouais, étonnant, hein ? Matthew McConaughey, grand acteur qui s'engage comme ça en politique. On suivra ça dans les années qui viennent. C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h12.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Les sports avec Jérôme Lacroix. On vous parle dans un instant du foot féminin à l'aube d'un moment historique. Mais le foot féminin qui est aussi dans la tourmente. Mais d'abord...
D'abord, on voulait vous faire entendre cette Marseillaise. Elle a résonné hier à Prague en l'honneur de Shirine Boukli, jeune gardoise, 21 ans, championne d'Europe de judo, catégorie moins de 48 kilos, médaille d'or, des années de travail et une finale éclair hier. 40 secondes pour mettre au tatami son adversaire serbe. Shirine Boukli rêve maintenant des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, décalé d'un an en raison du Covid. Ce pourrait être une aubaine, oui, pour la jeune championne désormais prête et forte d'un premier grand titre.
On passe au foot donc avec ce jour historique pour le foot féminin français.
Un match de D1 en première partie de soirée, 21h ce soir, et dans l'enceinte du Parc des Princes. Paris Saint-Germain-Lyon, choc de la 9e journée. Les deuxièmes reçoivent les premières, 2 points d'écart seulement au classement. La fête, oui, mais dans le brouillard, parce que beaucoup de joueuses de ces deux clubs sont aussi en équipe de France. Des Bleus secoués par le récent coup de griffe de la capitaine Amandine Henry contre Corinne Diacre, la sélectionneuse taxée d'autoritarisme, néfaste pour l'équipe. Corinne Diacre a tout de même appelé Amandine Henry hier pour les 2 prochains matchs des Bleus, une sélectionneuse qui ne se sent pas fragilisée.
Je reste debout et non, la démission, je suis soutenue par mon président et par des joueuses également. J'ai entendu les déclarations de certaines, mais je vous l'ai dit, pour moi c'est un problème, effectivement il faudra régler les choses. Mais aujourd'hui, la priorité c'est l'équipe de France. Si on doit venir pleurer en équipe de France, il ne faut pas venir. Je veux dire, il faut rester mesuré.
France-Autriche vendredi prochain et France-Kazakhstan le 1er décembre. Calendrier des deux derniers matchs de qualification qui seront décisifs pour l'accession à l'Euro 2022.
Ouais, le foot féminin dans la lumière et qui a donc les honneurs ce soir du Parc des Princes pour la toute première fois. On va en parler avec mon invité inattendu juste après ce journal des sports. Le tennis à présent. Et Raphaël Nadal s'accroche à son rêve.
Celui de gagner au moins une fois le Masters, le tournoi qui réunit chaque fin de saison les 8 meilleurs joueurs de l'année. L'Espagnol est en demi-finale après hier un succès 6-4, 4-6, 6-2 face au Grec Tsitsipas.
L'histoire du jour.
Je vous propose un tuto ce matin que j'ai appelé le poteau noir pour les nuls. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone dans l'océan Atlantique à laquelle les marins du Vendée Globe sont confrontés cette semaine? Toute l'explication avec le skipper suisse Alan Roura qui vient de s'y frotter.
Ce qui se passe, c'est qu'on a l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud qui se rencontrent. Et en fait, ça crée une zone de forte chaleur qui remonte beaucoup, beaucoup d'orages, de grains, des zones sans vent, des zones avec beaucoup de vent, mais qui sont imprévisibles. Et les masses nuageuses se déplacent relativement ou très vite ou très lentement. Et elles se créent à une rapidité assez incroyable. Donc se frayer un chemin là-dedans, c'est un peu la roulette russe, quoi. Donc le pot est vraiment une zone que tous les marins redoutent, parce que c'est un peu le triangle des Bermudas, nous, quoi.
Voilà, pourrait faire les malins, votre prochain dîner entre amateurs de voile et au classement. Ce matin, les deux premiers sont vraiment à touche-touche dans l'hémisphère sud. Le gallois Alex Thompson distance Thomas Ruyant d'à peine 4000 nautiques, 7 petits kilomètres. Troisième, toujours Charlie Dalin.
Et la route est encore longue. Oui. Le journal des sports chaque matin avec Jérôme Lacroix, 6h15.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Et je vous le disais, on parle foot ce matin avec l'invité inattendu du 5-7 qui est une actrice. Bonjour à vous.
Bonjour, c'est Julie Gaillet.
Bonjour Julie Gaillet, merci d'être avec nous. On parle de foot féminin avec vous à l'occasion donc de cet événement ce soir. Pour la première fois, les filles du PSG et de l'OL ont l'honneur de se rencontrer au Parc des Princes. C'est la première fois qu'un match de championnat féminin va s'y jouer. On va en parler ensemble dans un instant. Vous-même, vous jouiez au foot, vous allez nous raconter. À tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité inattendu du 5-7 est donc ce matin l'actrice Julie Gaillet avec qui on parle de foot parce que oui, vous partagez avec nous cette passion ce matin. Julie Gaillet, vous êtes du genre à chausser les crampons.
Oui, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, mais j'aime bien l'idée que vous parliez de foot et pas de foot féminin parce que puisqu'il va s'agir du match du PSG et de l'OL féminin, ça me fait assez plaisir, c'est chouette.
Vous avez joué dans votre enfance, c'était quoi, du foot de cours de récré ou vous jouiez dans un club?
Alors c'était le foot de cours de récré, même si malheureusement les garçons ne laissaient pas toujours la place aux filles, ça change. Oui. Je pense que c'est en train de changer, ou je l'espère, en tout cas on essaye de faire changer ça. Je devais parfois me battre pour arriver à jouer et puis j'ai continué à jouer après dans mon adolescence et puis même un peu plus tard avec un club amateur mais qu'on avait monté avec certains. On jouait voilà, le soir plusieurs fois par semaine, une fois on faisait quelques matchs amicaux.
Donc, quel poste vous occupez ?
J'avais pas vraiment de poste quand j'étais plus jeune au lycée, mais quand j'ai commencé plus adulte et comme j'étais comédienne, je suis passée au but parce que je me prenais des tacles et les tibias étaient très marqués.
Bah oui, ça fait des bleus.
À un moment donné,
foot.
Il a fallu arrêter. Ça ne colle pas avec les jupes sur les tournages.
Julie Gaillet, gardienne de but. Pour la première fois, donc ce soir, les joueuses du PSG féminin donc, vont avoir les honneurs du Parc des Princes pour le choc de première division face à l'Olympique Lyonnais. C'est un événement parce que c'est une première, un match de championnat féminin au Parc des Princes. Il aura fallu attendre 2020.
Ouais, il aura fallu attendre cette Coupe du Monde féminine incroyable. En même temps, le Groupama Stadium à Lyon avait déjà accueilli ce match-là et à chaque fois, c'est un événement. Alors bon, là, c'est en huis clos, mais c'est quand même, ah là là, quel plaisir, quelle fierté. Mais je serai physiquement, en tout cas, puisque là, on est confinés, mais je serai physiquement la prochaine fois là, dans les gradins pour vibrer. Mais elles sont légendaires, ces joueuses de l'OL. Ouais. Et puis face au PSG, c'est-à-dire quand même une immense joueuse aussi. Donc ça va être un très, très beau match.
Il s'est passé quelque chose, et vous citiez le Mondial de 2019 organisé en France. Il s'est passé quand même quelque chose autour du foot féminin depuis.
Oui, c'est clair. On en a parlé un petit peu plus, mais on ne s'attendait pas du tout. À l'époque, TF1 espérait peut-être 4 millions de téléspectateurs, et ça a été 11, 12 millions, la Coupe du Monde féminine. Ça a été incroyable, un score et un événement. Donc c'est sûr qu'elles sont effectivement légendaires. Les joueuses de l'OL ont gagné cette fois la Champions League, 5 fois d'affilée. Ce sont des excellentes joueurs, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui se passe dans la société certainement en ce moment. Moi, quand j'étais jeune, je ne me rendais pas compte que finalement je regardais des garçons jouer. Je jouais, mais je me projetais dans les garçons. Et je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui jouaient.
Vous ne connaissiez même pas les joueuses féminines ?
Oui, on ne les connaissait pas. On ne savait pas que ça existait. Et ça fait pourtant 50 ans, puisque c'était cette année les 50 ans du football féminin. Et là, maintenant, on peut avoir ce rêve-là de devenir footballeuse professionnelle. Dans la même équipe, aujourd'hui, il y a celle qui était comme Wendy Renard, comme Amandine Henry. Elles étaient amateurs. Et maintenant, les jeunes de 16 ans, elles sont trop très jeunes. Donc, ouais. C'est un grand changement.
Et c'est vrai que c'est toute la différence. On connaît leur nom, en tout cas, pour certaines, les stars de l'équipe de France, qui jouent pour la plupart donc, à l'Olympique Lyonnais. Wendy Renard, Amandine Henry, Jenny Le Sommer et les autres. L'OL, c'est une équipe que vous connaissez bien, parce que vous avez vous-même produit un documentaire sur elle.
Oui, je pense que c'est quand même une volonté d'un président d'un club à un moment donné de miser sur le football féminin et de montrer qu'il faut une volonté politique peut-être ou financière, en tout cas de dire que voilà, on va miser sur ça. Il l'a fait très tôt Jean-Michel Aulas, donc c'était important pour moi de le mettre en avant, ce club aussi qui a des joueuses du monde entier. Et Ada Hegerberg qui avait eu le premier ballon d'or quand il y a eu le premier ballon d'or créé. Mais ça ne m'a pas empêché aussi de produire, alors pour TF1 justement à l'époque de la Coupe du Monde féminine, des portraits des joueuses, et il y a des grandes joueuses au PSG. Il y a Katoto qui est merveilleuse, enfin, elle a des jambes, un jeu de jambes incroyable, donc le PSG, l'OL, enfin, aujourd'hui on a envie que tous les clubs aient un club féminin important.
Julie Gayet, grande passionnée de football ce matin sur Europe 1, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu, merci.
Merci beaucoup, merci à vous, vraiment. Bonne journée, au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h23 sur Europe 1. Amazon accepte un report du Black Friday au 4 décembre, tout comme Carrefour ou d'autres acteurs de la grande distribution. Une dernière réunion est prévue à Bercy aujourd'hui pour finaliser un accord. L'épidémie de coronavirus, la pression baisse à l'hôpital. Le nombre de nouvelles arrivées continue de baisser, mais il n'est pas d'actualité de déconfiner le pays, a martelé encore hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les terribles aveux de Jonathan Daval, pour la première fois, il a reconnu avoir tué intentionnellement son épouse Alexia hier. Devant les assises de Vesoul et puis aux États-Unis, le recomptage des voix dans l'État de Géorgie confirme la victoire de Joe Biden avec un peu plus de 12 000 bulletins de plus que Donald Trump.
Europe 1.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On vous retrouve dans quelques secondes pour notre planète. À tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h26 et on retrouve Fanny Agostini comme chaque matin pour mieux regarder notre planète changer. Vous nous dites ce matin, Fanny, qu'on peut faire désormais de l'encre écologique grâce aux guêpes.
Alors, ça paraît un peu farfelu, cette idée de chronique m'est venue en fait hier, lorsque je me baladais dans la forêt en bas de la maison. J'ai vu des feuilles de chêne tomber au sol sur lesquelles il y avait d'étranges excroissances, des sortes de petites noix de la taille d'une bille. Alors j'ai d'abord pensé à des fruits, mais je me suis dit que non, les fruits du chêne, ce sont les glands, donc pas possible. Et en faisant un petit peu de recherche, j'ai compris que l'arbre avait la gale. Oui, cela s'appelle la gale du chêne, qui entraîne la formation de noix de gale à cause d'une piqûre d'insectes et en l'occurrence d'une petite piqûre de guêpe. En approfondissant un peu cette affaire, j'ai appris que ces petites billes peuvent s'apparenter à des tumeurs sur les feuilles de l'arbre. Elles abritent la larve de la guêpe et surtout, elles sont remplies de tanins, idéal pour fabriquer de l'encre.
Et vous avez même découvert que c'est l'encre que les humains ont utilisée pendant des siècles.
Absolument, nous avons la mémoire courte, pourtant rendez-vous compte, pendant des siècles, nous avons pour écrire et calligraphier obtenu de l'encre grâce aux guêpes. Du 7e au 19e siècle, c'était l'encre que l'on utilisait dans toute l'Europe. C'est une encre noire nommée encre ferrogallique. Il suffit en fait d'écraser ces noix de gale pour obtenir un jus et de le mélanger avec du vitriol. On obtient un liquide qui noircit sur le papier en séchant. Cette encre, c'est celle qu'utilisaient les moines copistes, celle aussi avec laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée, ainsi que les essais de Montaigne. Cette encre séculaire qui fait partie de notre histoire a permis d'écrire l'histoire avant d'être supplantée par le pétrole il y a quelques décennies.
Oui, par le pétrole, de l'encre dérivée du pétrole. Il existe d'autres alternatives ?
Alors oui, c'est vrai que la plupart des encres sur le marché sont à base d'hydrocarbures, encore une dépendance supplémentaire aux fossiles, mais il existe toutefois des encres végétales à base de colza, de lin ou de soja qui sont mélangées à des résines naturelles comme celle du pin. D'ailleurs, de plus en plus d'imprimeries en utilisent, il suffit de se renseigner, y compris pour les cartouches de vos imprimantes à la maison. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé, pas faute d'avoir cherché, des imprimeries qui ont osé réutiliser ce procédé d'encre ferrogallique pour réaliser leurs impressions. Peut-être parce que ce n'est pas techniquement possible, mais en tout cas, ce serait charmant, original et surtout écologique de pouvoir remettre au goût du jour cette encre issue de la rencontre entre un chêne et une guêpe.
Ouais, on avait oublié que l'encre des moines copistes et des essais de montagne venait de la guêpe. Notre planète, chaque matin avec vous, Fanny Agostini. À lundi. Et on retrouve Laurent Cabrol pour le ciel de ce vendredi.
Oui, avec une tendance qui se dessine maintenant, ça y est, hein, c'est vraiment l'avenir des 3-4 jours qui viennent, à savoir près de la Manche des nuages et un temps plutôt froid. Et puis au fur et à mesure que nous entrons vers le sud, eh bien, nous pénétrons dans des régions où le soleil va s'imposer durablement, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, après-demain, probablement lundi et mardi. Alors, vous voyez, nous sommes vraiment dans une configuration anticyclonique. Alors le temps en ce matin, c'est un temps souvent nuageux, ou brumeux, mais enfin c'est pas grand chose puisque dans le courant de la journée nous aurons du soleil pratiquement partout avec quelques réserves. D'abord le littoral de la Manche, j'en parlais, très nuageux et quelques gouttes, les Alpes et le Jura avec parfois des chutes de neige à partir de 1000 mètres car nous aurons des nuages, et puis sur la Corse un vent très violent avec des orages, le vent aussi soufflera fortement mais sur le littoral méditerranéen côté continent, mais en général ce sera une journée plutôt sympa, les températures maximales entre 8 et 13 degrés, ça baisse bien sûr. Il n'en fera que 9 à Paris et 10 à Lille.
Voilà pour une météo complète ce matin avec vous. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de votre fidélité au 5-7. Merci de vous réveiller avec nous. Bon réveil. Il est presque 6h30. On va retrouver François Geffrier pour un nouveau journal. Bonjour François.
Bonjour Sébastien. Bonjour à tous.
6h30.
Curieusement, les hommes ont perdu rapidement leurs anticorps alors que les femmes ont montré une meilleure stabilité des anticorps.
Plus de cas graves du Covid parmi les hommes que les femmes. Une étude apporte un début d'explication génétique. Un récit impressionnant de courage hier au procès de l'attentat dans le Thalys. Un franco-américain qui avait 51 ans à l'époque et qui s'est battu avec le terroriste et lui a arraché sa Kalachnikov. Et puis PSG-OL, grosse affiche, c'est du foot. Ce sont des joueuses, les meilleures d'Europe face à face ce soir. Et pour la première fois, c'est sur la pelouse du Parc des Princes.
Ne dites pas déconfinement, mais allègement progressif. Voilà ce qui se dessine. Mais avec quelle stratégie? On va s'intéresser c'est ce matin à l'exemple de la Catalogne qui pourrait inspirer la France. La région de Barcelone lève dès lundi une partie de ses restrictions. On va rouvrir les restaurants, mais pas à pas, vous verrez. On en parle dans 10 minutes avec le représentant de la Catalogne en France, Daniel Camos. Et puis on retrouvera Anis Mbida et votre revue de presse internationale. Bienvenue à tous, 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un constat. Depuis le début de l'épidémie, il y a plus d'hommes que de femmes parmi les patients hospitalisés pour Covid et parmi les décès, alors qu'ils ne sont pas plus nombreux à être infectés par le virus. Une étude des hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Institut Pasteur vient de confirmer, Anne Le Gall, que les hommes perdaient plus vite leur immunité.
Exactement, pour cette étude, les chercheurs ont suivi 308 membres du personnel de l'hôpital de Strasbourg, des hommes et des femmes qui ont été touchés par le coronavirus et pour qui on connaissait la date de contamination. Pour chacun d'eux, les chercheurs ont mesuré la quantité d'anticorps qu'il leur restait précisément 3 mois et 6 mois après l'infection, explique la professeure Samira Fafi-Kremer, co-auteur de l'étude, et des différences hommes-femmes apparaissent clairement.
Curieusement, vers 3-6 mois, les hommes ont perdu rapidement leurs anticorps alors que les femmes ont montré une meilleure stabilité des anticorps. On sait que plusieurs gènes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire sont liés au chromosome X. Il y a aussi un lien avec nos hormones. Maintenant, il va falloir voir si cette donnée persiste dans le temps.
Les chromosomes XX des femmes et XY des hommes pourraient donc expliquer ces différences. Alors une question se pose, un éventuel vaccin pourrait-il aussi être plus efficace chez les femmes? Impossible de l'affirmer pour l'instant, mais ces chercheurs espèrent que les laboratoires mèneront vite des travaux sur la question.
Voilà, les pistes et les explications d'Anne Le Gall.
C'est sans doute un tournant et la fin du feuilleton aussi dans la guerre entre les les différentes branches du commerce français. Amazon accepte finalement de décaler le Black Friday d'une semaine.
Oui, ce sera le 4 décembre et non pas le 27 novembre. Ce sera donc dans deux semaines, ce qui ouvre la voie à une réouverture des petits commerces quelques jours avant cette ruée sur les méga-promotions. Soulagement aussi chez les grands distributeurs que représente Jacques Cressel de la Fédération du commerce et de la distribution.
La décision prise par les distributeurs de reporter le Black Friday et que Amazon a rejoint hier soir est une position qui doit permettre une réouverture le 27 ou le 28 novembre de l'ensemble des magasins. C'est en tout cas comme cela que cela nous a été présenté par le gouvernement en disant qu'il n'était pas possible du point de vue sanitaire qu'il y ait à la fois la réouverture le 27 ou le 28 et une opération promotionnelle importante. Et c'est ça qui nous a conduit à accepter ce report. Ah non, nous respirons lorsque la décision sera annoncée, on l'espère officiellement par le président de la République en début de semaine prochaine, de rouvrir tous les magasins. C'est essentiel pour la survie du commerce, c'est essentiel pour faire en sorte que les courses de Noël se passent au mieux, que les Français aient de nouveau accès à leurs produits. Ça n'est qu'une première étape qui est en train d'être franchie.
Jacques Cressel, délégué général de la FCD, au micro Europe 1 de Pierre Herbulot. Autre nouvelle encourageante, le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour les vaccins de Moderna et de Pfizer pourrait intervenir dès la deuxième quinzaine de décembre. C'est ce que laisse entendre la présidente de la commission, Ursula von der Leyen.
Un témoignage très fort hier au procès de l'attentat dans le Thalys Amsterdam-Paris. C'était en août de 2015. Avant d'être maîtrisé par des soldats américains qui étaient en vacances, le terroriste a été désarmé une première fois par un autre homme.
Oui, Marc Mogalian, franco-américain de 56 ans, qui est donc venu raconter cette scène invraisemblable devant la cour d'assises spéciale de Paris. Gladys Laffitte.
Marc Mogalian s'était mis sur son 31 pour témoigner à la barre. Costume noir, chemise blanche et une cravate bariolée de circonstances pour évoquer dignement ce jour où il s'est vu mourir. Assis dans le Thalys avec son épouse Isabelle, il est intrigué par un homme qui reste 10 minutes aux toilettes avec une valise. Il va voir, un autre passager est là. Enfin, un homme ouvre la porte avec des gros yeux et une kalachnikov. Je pensais que c'était peut-être un déguisement, explique ce franco-américain. Et puis tout s'enchaîne très vite. Le passager et le terroriste se battent. Marc Mogalian finit par s'emparer de la kalachnikov, je ne sais pas comment, j'ai fait trois pas et on m'a tiré dans le dos. C'est Isabelle qui raconte la suite à la cour, très émue, le temps s'est arrêté, je veux alors mourir avec mon mari. Elle décrit son impuissance pour stopper le sang qui coule du cou de son époux. Heureusement, l'un des soldats américains vient comprimer la plaie et lui sauve la vie. Malgré une plongée dans ce que l'être humain a de plus sombre, comme elle le dit, Isabelle a décidé d'en tirer du positif. Elle est devenue coach en reconversion professionnelle pour essayer, dit-elle, d'apporter encore plus de lumière.
Le récit de Gladys Laffitte devant la cour d'assises spéciale de Paris. On en parlait à l'instant, il y a quelques minutes, avec mon invité inattendu, Julie Gayet, fana de foot. Il aura fallu attendre 2020, disait-elle, mais ça y est, le football féminin a les honneurs du Parc des Princes ce soir pour PSG-OL.
Oui, c'est le choc de la 9e journée de Division 1 féminine, une rencontre dans un contexte très particulier. Les deux équipes fournissent les deux tiers des joueuses de l'équipe de France qui sont en bisbille total avec leur sélectionneur Corinne Diacre. Mais hier, l'heure était à l'apaisement. Julien Froment.
On attendait la petite phrase sur le climat en équipe de France, mais il n'en fut rien. La capitaine des Lyonnaises et figure des Bleus, Wendy Renard, qui maîtrise à la perfection sa communication, a préféré botter en touche.
Voilà, il y a eu des discussions, on a parlé, donc on ne va pas rajouter des tonnes à chaque fois ou quoi que ce soit, ce n'est pas le but. Vendredi soir, on a un match important et on a surtout, en cas de victoire, on peut être au classement, on peut être très bien, donc c'est juste ça.
Le Paris Saint-Germain, lui, n'a pris aucun risque. C'est une joueuse allemande qui a été envoyée devant la presse pour protéger les internationales françaises de toute polémique, nous a-t-on expliqué au club. C'est donc le coach Olivier Chouafny, prédécesseur de Corinne Diacre chez les Bleus entre 2015 et 2017, qui s'y est collé.
J'espère de tout cœur, sincèrement, que cette équipe de France puisse retrouver un peu plus de sérénité. Je pense qu'elle en manque cruellement et ça fait mal de voir tout ça. Donc il faut se recentrer sur les choses importantes. Les choses importantes, c'est le terrain.
Signe que ce match et que le contexte surtout intéressent plus que d'habitude. Au total, 40 journalistes sont accrédités pour cette affiche qui, espérons-le, redorera l'espace de 90 minutes l'image du football français féminin.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Le journal complet, signé François Geffrier sur Europe 1. Il est 6h37.
Europe 1.
Et j'accueille dans ce studio l'invité du 5-7. Bonjour Daniel Camos.
Bonjour Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre ce matin en direct. Vous êtes le délégué du gouvernement catalan en France, sorte d'ambassadeur, si on peut le dire comme ça, de la région Catalogne, région de Barcelone, qui entame lundi son déconfinement, mais alors très progressivement. Et c'est une stratégie qu'on va regarder de près parce qu'elle pourrait peut-être inspirer la France. Vous allez en tout cas nous expliquer dans une minute. A tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le délégué, le représentant en France du gouvernement catalan est dans le studio d'Europe 1 ce matin, l'invité du 5-7. C'est très intéressant de vous entendre ce matin, Daniel Camus, parce que la Catalogne entame donc son déconfinement. C'est, je pense, la première région d'Europe vraiment à se lancer dans ce déconfinement. Et les mesures que vous prenez seront peut-être une source d'inspiration pour le gouvernement français qui est en train d'y réfléchir, on le sait. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que j'ai dit déconfinement, mais ce n'est pas non plus en Catalogne le terme qui est utilisé. Ce n'est pas un déconfinement.
Oui, bonjour. Effectivement, ce n'est pas un confinement parce que nous n'avons pas fait de confinement domiciliaire en Catalogne et après l'été. Donc ce que nous avons fait en Catalogne, c'est prendre un certain nombre de mesures qui incluent par exemple un couvre-feu de 22h à 6h du matin depuis quelques semaines. Nous avons aussi ce que nous appelons un confinement périmétrique, ce qui veut dire en gros qu'on ne peut pas sortir et rentrer de la Catalogne sauf des exceptions, mais peut-être encore plus important pour limiter le mouvement, c'est que les week-ends, du vendredi matin jusqu'au lundi à 6h du matin, on ne peut pas changer d'une municipalité à une autre, ce qui évite des dynamiques de week-end, d'aller à la montagne, d'aller à la plage, deuxième résidence, etc. etc.
Donc ça, c'est les mesures qui sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. À partir de lundi, ce que vous allez mettre en place, c'est un assouplissement très progressif. Alors, qu'est-ce qui change ?
Absolument. C'est un assouplissement progressif parce que vous le savez bien que pendant, disons, la première fois, on a sans doute été un tout petit peu trop vite. Et cette fois-ci, on a décidé de le faire en 4 phases qui ont 2 semaines minimum chacune. D'accord. Et ce qui change concrètement entre la situation actuelle et la situation de la première phase qui débute lundi, c'est surtout, pour citer 2 éléments, c'est que les bars et les restaurants vont pouvoir rouvrir 100% des terrasses avec 2 mètres de distance et 30% à l'intérieur, et que les cinémas et les théâtres et l'offre culturelle va pouvoir rouvrir avec un 50% de capacité.
Donc la stratégie, c'est de rouvrir tout de suite avec des capacités réduites qui vont pouvoir augmenter dans les semaines qui suivront ?
Absolument, absolument. Donc, par exemple, pour parler des restaurants, et on commence à 30%. Ensuite, à la deuxième phase, on monterait à 50% progressivement. Et dans les théâtres et les cinémas, on passerait de 50% à 70% à la deuxième phase. Ensuite, j'ai pas cité, on a aussi une limitation de réunion de un maximum de 6 personnes. Et ça, la troisième phase, ça pourrait évoluer jusqu'à 10 personnes. Et c'est important parce que la troisième phase, si tout allait bien dans les 2 premières, débuterait le 21 décembre.
Pour la
ça ne nous échappe
Noël.
Pas que le 21 décembre, évidemment, ça conditionne un petit peu le comment on va pouvoir fêter les
Alors justement, qu'est-ce qui est envisagé ? C'est la grande question, évidemment, en France, comment on va pouvoir fêter Noël ? C'est aussi une tradition très forte en Espagne, bien sûr. Les familles vont pouvoir se retrouver ?
Oui, écoutez, donc a priori, si nous arrivons à la phase 3 le 21 décembre, et la condition de ça, c'est que les 2 premières phases soient évaluées et se soient bien passées, nous la débuterons le 21 décembre, et donc à partir du 21 décembre, on pourrait se réunir en groupe de 10 personnes de 2 noyaux familiales différents, et ça c'est pour donner un exemple. Mais il est important aussi de dire quelque chose qui est que la semaine prochaine, le gouvernement catalan va annoncer des exceptions très particulières pour des jours très ciblés. Ça ne vous échappe pas que je parle du jour de Noël, peut-être le 24 au soir.
Pour et pouvoir bien se évidemment déplacer, par exemple.
Je préfère ne pas m'avancer sur ça, mais disons, ça peut, les flexibilisations exceptionnelles peuvent aller dans la direction de pouvoir se déplacer un petit peu,
de pouvoir se réunir à plus nombreux.
Je préfère ne pas trop m'aventurer. D'accord. Ce que je peux vous assurer, c'est que bien évidemment, le couvre-feu ne sera pas appliqué ni au Roi Mage, ni au Père Noël et ses lutins.
Et oui, on sait que la fête des Rois Mages est très importante aussi en Espagne. Vous parlez de jauge dans le cercle privé avec 2 noyaux familiaux exclusivement. C'est quelque chose qu'en Espagne, vous contrôlez dans l'espace privé ? On sait qu'en France, par exemple, ça n'est pas possible.
Nous ne pouvons pas le contrôler dans l'espace privé. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, depuis le début de cette crise, et je pense que c'est le cas aussi en France, mais en tout cas dans le cas de la Catalogne, nous avons demandé des efforts extraordinaires aux citoyens et aux citoyennes. Et je dois dire que du gouvernement, on ne peut que remercier l'attitude de l'immense majorité de la citoyenneté qui a été d'une responsabilité exceptionnelle pour un moment bien évidemment exceptionnel.
Ouais. Et je précise que le couvre-feu, lui, va être maintenu encore la semaine prochaine à 22h.
Le couvre-feu va être maintenu non seulement la semaine prochaine, mais pendant les 4 phases de ce déconfinement qui durera, ça ne vous échappe pas, au moins 2 mois. Parce qu'on a dit 4 phases de 2 semaines chacune. Donc au moins jusqu'à la mi-janvier, on aura un couvre-feu en Catalogne. Encore une fois, il y aura peut-être
des petites exceptions
ou de jours très concrets.
Pour les fêtes.
Mais la règle du jeu, s'il y a des Français qui réfléchissent à peut-être venir en Catalogne, passer quelques jours à la fin de l'année, etc., il y aura un couvre-feu. Ce qui ne veut pas dire que de 6h du matin à 22h, on peut faire bien évidemment beaucoup de choses. entre autres parce qu'on n'a jamais eu depuis la fin du mois de mai de confinement domiciliaire en Catalogne.
Ce que vous aviez eu, et il était très dur au printemps dernier. Comment les Espagnols prennent ces restrictions aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a, comme en France, une grogne qui monte, notamment sur les conséquences économiques pour les commerçants ou pour les restaurateurs ?
Écoutez, dans le cas des Catalans, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a effectivement au mois de mai, on anticipait qu'il y avait une crise socio-économique qui allait arriver. Là, nous sommes en plein dedans. Et bien évidemment, ceci a des conséquences. Il y a certains secteurs qui ne sont pas contents et qui nous demandent d'ouvrir de façon plus forte, etc., etc. Je dois dire que...
Il y a eu des manifestations, par exemple, à Barcelone ?
Il y a eu quelques petites manifestations, pas des grosses, mais des petites. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que hier après-midi, la réaction, quand nous avons annoncé ce plan en quatre phases, la réaction de beaucoup de secteurs a été de... ils étaient contents de pouvoir recommencer petit à petit. Et je pense que, bien évidemment, un propriétaire d'un bar ou d'un restaurant, bien évidemment, il veut ouvrir, il a besoin de pouvoir faire du business pour survivre. Mais encore une fois, je pense qu'il y a aussi cet élément de citoyenneté et de responsabilité collective qu'ils ont évidemment aussi.
On retient donc ces quatre phases étalées sur deux mois, mais une réouverture des restaurants dès lundi à Barcelone. Voilà, c'est la stratégie de la Catalogne avec des jauges très limitées, mais une réouverture quand même. Et c'est intéressant d'entendre ça quand on voit où en est le débat aujourd'hui en France et des décisions qui vont être prises en France dans les tout prochains jours. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer cette stratégie. Daniel Camos, représentant en France du gouvernement catalan. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous. Europe 1.
Et on va retrouver Anissa Mbida dans un instant pour l'innovation du jour. A tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 6h48 sur Europe 1. L'aveu devant les assises. C'est bien volontairement que Jonathan Daval a tué sa femme Alexia. Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est bien pour lui donner la mort, a-t-il reconnu hier. La pression sur l'hôpital continue de se relâcher. Le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid est en nette baisse. 500 de moins en 24 heures. Ils sont toujours 32 300 au total, dont 4600 en réanimation. Optimisation et évasion fiscale, ce sont 17 milliards d'euros d'impôts qui échappent à la France, selon un rapport de l'ONG Tax Justice Network. Et puis aux États-Unis, Joe Biden, conforté après un recomptage des voix dans l'État de Géorgie, attaque la contestation des résultats par Donald Trump. Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne, dit le président élu américain. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour va nous permettre de retourner au concert ce week-end. Les grandes tournées, les grands concerts pop sont de retour. Alors évidemment, pas dans les stades, ni dans les grandes salles, mais en réalité virtuelle, dans des jeux vidéo.
Oui, ça a commencé hier matin avec le groupe Major Lazer, vous connaissez sûrement.
Tube de l'été.
Mais oui, il a relancé sa tournée qu'il avait stoppée à cause du Covid. Il y a plus de 40 000 personnes pour la première date. Sauf que c'était un concert un peu spécial puisqu'il a eu lieu en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on met un casque sur la tête, des écouteurs et on est projeté dans une salle de concert virtuelle avec le groupe qui joue en direct, filmé devant soi. En plus, on peut tourner la tête, voir les avatars des autres participants. C'est comme dans un concert classique, mais chacun est chez lui tranquillement. Même chose le week-end dernier avec le rappeur Lil Nas X, je vais y arriver, Old Town Road. Alors lui, il a fait un show gigantesque sur plusieurs jours qui était suivi par 33 millions de personnes sur Roblox. Je ne sais pas si vous connaissez Roblox, mais c'est le jeu vidéo pour ados qui monte en ce moment, d'accord, qui va détrôner Fortnite certainement. Donc on est très très loin des concerts improvisés en direct sur Facebook, sur Instagram, qu'on a vu au premier confinement par exemple.
Alors ça reste réservé aux stars internationales, il n'y a rien pour les plus petits artistes ?
Alors si, hein, y a plusieurs plateformes qui proposent désormais du streaming payant. Je pense à LiveNow, Mandoline ou Single Music. Donc on achète son billet, comme d'habitude, on reçoit un lien pour visionner le concert depuis son canapé. C'est comme ça que le groupe Gorillaz, que vous connaissez certainement, va lancer sa tournée début décembre pour la sortie de son dernier album.
Désolé, désolé, désolé. Alors, on
On voit plus l'artiste en vrai, mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. On est à une dizaine d'euros contre 40, 60, même 80 euros chez les artistes. Hein, c'est un peu le changement qu'il y a avec le numérique, c'est beaucoup moins cher.
Mais on est dans son canapé et on n'a pas l'ambiance qu'on a quand même dans la partie jeux vidéo, où là on peut s'immerger dans l'ambiance du concert dans la fosse. Anissa Mbida pour l'innovation du jour chaque matin, merci.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'épargne, vous être utile.
Notre tour du monde chaque matin de la presse internationale avec le réseau des correspondants d'Europe 1. On commence ce matin en Israël. Bonjour Clotilde Mravko.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous à Jérusalem ?
Eh bien, c'est le secrétaire d'État américain qui occupe les journaux israéliens ce matin. Mike Pompeo a visité hier une colonie en Cisjordanie. Une première pour un responsable américain de si haut rang, raconte le Yediot Aharonot. Les colonies israéliennes sont illégales aux yeux du droit international et les responsables politiques évitent donc de s'y rendre. Mais l'administration Trump multiplie les cadeaux aux Israéliens avant son départ. Le chef de la diplomatie américaine a donc annoncé que les produits fabriqués dans ces colonies seraient désormais labellisés « Made in Israel » aux États-Unis. Rapporte le Jérusalem Post. Et l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Pompeo a visité une cave à vin cachère. Le propriétaire avait lancé l'an dernier une nouvelle cuvée, rappelle Haaretz, la cuvée Pompeo, pour remercier le secrétaire d'État américain de sa politique pro-colonie.
Ah, une cuvée, rien que ça. Clotilde Mravko, correspondante d'Europe 1 en Israël. Nous allons à Rome à présent. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait les gros titres dans les médias italiens ?
Eh bien ici, c'est une affaire mafieuse qui se passe en Calabre, à la pointe de la botte italienne. Le président du conseil régional s'est fait arrêter pour association avec la 'Ndrangheta, écrit le Messaggero. Il est accusé d'avoir aidé un clan de cette puissante mafia à créer une société de vente de médicaments. Un réseau d'une vingtaine de pharmacies revendait les produits pour blanchir l'argent sale, explique la Repubblica. Et en échange, l'élu a pu compter sur les votes des mafiosi pour gagner plusieurs élections. L'opération surnommée Pharma Business fait d'autant plus réagir ici que dans cette région du Sud, la gestion sanitaire est chaotique, relève le Corriere. En plein rebond du virus, aucun plan anti-Covid n'a été lancé localement et le gouvernement ne trouve personne pour chapeauter le système de santé en Calabre. Corruption, incompétence pour la presse locale, ce sont ces négligences qui ont laissé aujourd'hui tout loisir à la mafia calabraise de s'engouffrer dans la faille sanitaire.
Un récit signé Blandine Hugonnet à Rome et on va terminer ce tour du monde au Brésil. Avec vous Marino Dacher, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Et quel sujet occupe les journaux ?
Le Covid qui se propage dans les villages indigènes. Un Indien sur trois des peuples Yanomami et Yekwana dans le nord du Brésil contaminé, souligne le journal Globo. Dans la plus grande réserve indigène du Brésil, il n'y a aucune action du gouvernement. Il fallait isoler les Indiens, rien n'a été fait, alerte Mauricio à la tête d'une association Yanomami. Au moins 20 000 orpailleurs clandestins se rapprochent des villages indigènes et propagent le virus, rapporte la presse. L'hebdomadaire Epoca revient aussi sur ces bébés morts du coronavirus, enterrés près de l'hôpital public, loin de leur village et des rituels sacrés pour le peuple Yanomami. Selon les calculs de l'Institut socio-environnemental, 161 peuples indigènes sont touchés, 877 Indiens sont morts et près de 40 000 ont déjà été contaminés.
Merci Marino Dacher, correspondante d'Europe 1 au Brésil. Nous étions donc à Sao Paulo, à Rome et à Jérusalem ce matin dans votre revue de presse internationale.
C'était la revue de presse internationale avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1.
Cette fois, l'ouverture des commerces se dessine peut-être dès la fin de la semaine prochaine. Tout cela est permis par l'accord trouvé sur le report du Black Friday. Ce sera l'ouverture du journal de 7h. À suivre dans le 7-9 de Mathieu Béliard qui s'installe. À tout de suite sur Europe 1.